With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenue, mesdames et messieurs, dans la 10e, je crois, émission de Underscore. C'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve et que j'accueille mes beaux invités que vous voyez déjà à l'heure actuelle. Hugo, mon cher ami Hugo Décrypte, comment vas-tu?
Très bien, très content d'être là, ça fait plaisir.
Et ben c'est la première fois que tu viens, enfin.
Ouais, bah c'est vrai, ça fait quelques temps et c'est plaisir.
Et mon deuxième invité, j'ai l'honneur d'accueillir monsieur Guillaume Rosier. Bah ça fait très plaisir déjà de t'accueillir. Tu as décalé, il faut le dire, tu as décalé une conférence juste pour nous.
Ouais, mais ça me fait plaisir d'être là.
Bah, ça fait plaisir. En tout cas. Surtout, on a cru comprendre que tu faisais beaucoup moins d'interviews qu'avant. Mais t'as quand même accepté la nôtre.
Ouais.
Donc, ça nous fait plaisir.
Je fais plus que les trucs cool.
Ah, okay, bon, c'est beau. Ok, c'est bon. Ça va bien, c'est cool. On a un programme vraiment lourd et chargé. On va discuter de plein de trucs. Notre ami Guillaume, si vous le connaissez pas, c'est lui qui est derrière l'application, l'applications, l'écosystème Covid Tracker, même, je dirais. Et Vite Ma Dose, qui est un service sorti il y a peu. On va vous parler de ces services qui sont quand même utilisés par des millions de Français chaque jour, quoi. Donc c'est complètement dingue. Tout ça a été initié donc par ce monsieur tout seul. Donc maintenant t'es accompagné de pas mal d'autres développeurs. C'est une vraie communauté qui est derrière tout ça, donc c'est méga stylé. Donc on va vous parler un peu de tout ça. On va aussi vous parler de l'aspect un peu technique qu'il y a derrière. Je pense que t'as dû être invité quand même sur beaucoup de plateaux. Je pense pas que t'as pu encore beaucoup traiter les ressorts techniques de ces trucs.
Non, ouais, pas vraiment.
Et voilà, ce sera l'occasion de le faire. C'est trop bien. Je peux noter notamment que t'as eu un portrait dans le New York Times qui est méga stylé. Tu as eu un SMS de notre président de la République, Emmanuel Macron.
Alors c'était pas un SMS, c'était un DM sur Twitter.
Un DM sur Twitter, pardon. Un beau tableau de chasse déjà, mine de rien. Et tu as littéralement refusé un passage aux 20h de France 2 aujourd'hui. Donc voilà. Donc on a une star, voilà. C'est vraiment trop stylé de t'avoir. Et Hugo, vous le connaissez, il traite de sujets de société, de politique, d'actualité. C'est ça, j'ai
ouais,
bien résumé.
Ouais, très bien résumé, ouais. Un peu du coronavirus en ce moment, légèrement.
Un tout petit peu, vraiment, ponctuellement.
Présent.
Mais on promet dans cette émission, ce sera un good mood, ok. On va pas vous parler des dernières, vous pouvez aller sur la chaîne de Hugo pour avoir les dernières nouvelles. On va plus aborder l'aspect vraiment technique des plateformes qu'a développé Guillaume et peut-être pouvoir un peu dévier sur ce qu'il en a tiré finalement. Et voilà, parce qu'il y aura plein de trucs hyper intéressants à voir. Hugo, tes petites dernières actus, c'est quoi ce que j'ai noté quand même? T'as sorti une nouvelle chaîne.
Ouais.
Comme ça, tu sors des chaînes YouTube de ton panier.
Pas évident comme move. En fait, c'est une question que je me posais depuis longtemps. Parce qu'il y a un an, on a lancé le format des actus du jour sur YouTube. Donc, un résumé d'actu au quotidien sur YouTube du lundi au vendredi. Et en fait, ce format a pris beaucoup de place parce qu'il est quotidien. Donc, il prend beaucoup de place sur YouTube. Et ça a un peu mis de côté les autres formats qu'on avait sur la chaîne, tu vois. Des formats de reportage, des formats. Là, c'est des formats un peu plus de portraits. On a rencontré notamment un directeur de la CIA, et donc il y a eu un peu toute cette question et cette réflexion de se dire comment est-ce qu'on fait vivre les différents contenus. Et il y avait notamment une question d'algo sur YouTube.
Okay.
Où en fait je me retrouvais dans une situation où avant mes reportages et ce genre de contenu qu'on faisait pouvaient faire facilement 1 million de vues et être bien porté sur YouTube.
Ouais.
Et en fait, à partir du moment où on a fait ce format des actus du jour, ce format des actus du jour sur YouTube, il est très suivi. C'est-à-dire qu'il y a un truc, c'est un format où il y a plein de gens qui attendent 22 heures.
Une bonne maladie pour un YouTuber quand même, déjà. Oui, c'est une bonne maladie pour un YouTuber.
Ouais, c'est plutôt pas mal. Mais du coup, tu vois, il y a plein de gens qui ont le réflexe, quel que soit le titre, le machin, le truc, de cliquer sur la vidéo et d'aller dessus. Ce qui fait qu'en fait, l'algo,
si tu sens un truc différent.
Exactement. A un peu favorisé ces contenus d'actus du jour. Et tout ce qui n'est pas ça, se retrouve un peu mis de côté. Et donc tous les reportages et les autres contenus qu'on a postés le week-end avaient un peu moins de mise en avant. Donc en fait, il y a eu l'idée de se dire comment est-ce qu'on fait vivre tous ces autres contenus, parce qu'on va avoir plein de formats qui vont arriver. Et donc il y a eu l'idée de se dire la chaîne qui existait jusqu'ici, elle est renommée Hugo Décrypte Actu du jour. Il y a une nouvelle chaîne qu'on lance, cette chaîne-là du coup, Hugo Décrypte, sur laquelle on va mettre tous les autres contenus, les reportages, les machins, les
trucs.
Ok,
trop stylé. Et commences quand même sur les chapeaux de roue. On peut en parler. Ta première vidéo, tu nous racontes enfin c'est un, j'appelle ça un reportage honnêtement ce que t'as sorti sur l'élimination de Ben Laden, où ouais. t'as eu l'occasion de discuter avec l'ancien patron de la CIA, rien que ça. Ça te fait un titre, tu l'as titré comment celle-là?
Le patron
de la CIA me raconte l'assassinat de Ben Laden.
Je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça. Le...
Voilà. Ça, c'est
démonétisation pas... du coup instantanée, ça y est, pas de doute là-dessus, hein, ça c'est normal.
Mais ouais, allez voir, parce que trop fort, hyper intéressant, tu t'es fait une petite ambiance
ouais,
dark et tout.
C'est un petit truc un peu différent. Et les gens ont kiffé, et je pense qu'en fait, on va le reproduire après sur d'autres personnalités ou d'autres histoires. Tiens, j'aimerais bien avoir d'autres personnes qui vont nous raconter d'autres expériences, d'autres choses. Même là, tout à l'heure, on se disait, ça serait bien d'avoir Felix Baumgartner pour parler de son saut à la limite de l'espace, machin, qui nous raconte ça. En fait, tu peux avoir des politiques, des scientifiques, des sportifs autres qui vont te raconter des histoires qu'ils ont vécues. Et en fait, c'est un format d'interview un peu différent, tu vois, où c'est un peu
d'interview écrite.
C'est ça, c'est un peu ça.
Honnêtement, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, je me suis mis dans ta peau, je me suis dit, on a dû avoir les mêmes. Les mêmes problématiques que ce que j'ai fait sur ma vidéo Shadow il y a pas longtemps, je sais pas si tu as pu l'avoir, mais c'est pareil, c'était en mode comment tu remontes un interview mais pour le redynamiser au format YouTube et tout. Du coup, allez voir ça parce que c'est vraiment un très bel exemple de format réussi justement de ce type là sur des sujets croustillants. Vous pouvez aussi du coup vous abonner à la chaîne YouTube de ce cher ami. Il risque d'y avoir du lourd vu comment ça part. Première question pour toi, mon cher ami Guillaume. Ton épopée, parce qu'on peut appeler ça quand même une épopée. Il y a un an, j'étais
inconnu.
J'allais pas le dire comme ça, mais c'est un peu ça. T'étais un peu inconnu au bataillon. Pas très habitué des plateaux télé du tout. Comment c'est possible que tu sois passé de personnes comme nous autres à là aujourd'hui où tu es obligé de refuser les passages chez TF1 et BFM TV et consorts. Comment ça a commencé? Quelle est la première étape?
Franchement, c'est dur à dire. Je le constate comme toi. Enfin, c'est un truc de dingue. Ouais. Il y a un an, j'étais étudiant, j'étais en stage de fin d'études au Luxembourg. Je faisais mon stage tranquille dans ma chambre tout seul. J'étais inconnu. Et vraiment, ça s'est fait progressivement, naturellement. En fait, c'est ça le truc de dingue, c'est que j'ai jamais eu l'ambition. En fait, à aucun moment.
T'as pas eu un moment où tu t'es dit, waouh, il y a une avalanche, quoi.
Mais non, genre, en fait, je me suis pas dit, tiens, Guillaume, tu vas faire un site. Ce site, il va faire des millions de vues, tu vas passer à la télé pour en parler et tout. Enfin, à aucun moment, je me suis dit ça, quoi. J'ai même pas fait d'études dans le développement web. Enfin, je veux dire, j'avais jamais écrit une ligne de HTML ou CSS avant. Et donc, c'était pas du tout prévu, quoi. Et après, ouais, à l'automne, j'ai été propulsé un peu sur les plateaux télé. C'est un peu Quotidien qui m'a mis dans le truc, enfin l'invitation de Quotidien qui a lancé tous les autres. Et depuis octobre, c'est Quotidien, c'est tous les jours, j'ai des invitations tous les jours. En ce moment, c'est plusieurs fois par jour, donc c'est prenant parce que maintenant j'ai un CDI, etc. Donc,
justement, c'est ça qui va être cool. Refuser. Tu vas pouvoir nous raconter un petit peu les dessous de tout ce qui s'est passé de cette année pour toi, de comment tu gères ça, qu'est-ce que tu fais professionnellement, c'est quoi le métier qu'il faut déjà pour faire des sites comme ça, qui on peut le dire sont honnêtement, t'inquiète, je veux pas te saucer toutes les missions, mais qui sont quand même d'utilité publique vu le nombre de visites, voilà, c'est parlant, quoi. De mes souvenirs, la première fois que j'avais entendu parler, c'était t'avais fait un tweet où tu t'avais juste publié un graphique, je crois, où il y avait France, Italie, c'était vraiment tout début, je crois. La formation des courbes du Covid et tout, et on pouvait les comparer. C'était vraiment au tout début, avant même que maintenant on est un peu plus habitué à suivre les stats. C'est devenu un peu notre comme tu suis ta bourse, quoi. Bon, là c'est la même chose, tu suis les courbes du Covid, c'est devenu habituel, mais à l'époque c'était une des premières fois qu'on voyait. Ouais, c'était ça.
Ouais, ça, il est vraiment moche ce graphique. alors ça, c'était le 5 mars 2020, enfin faut se remettre dans le contexte. C'était 12 jours avant le confinement. L'Italie était même pas confinée, et quand l'Italie était confinée, genre ça nous a tous choqués. On pensait pas qu'un pays européen pourrait être confiné un jour.
On a tous découvert l'existence du mot confiné.
Et on était optimistes, on se disait oh peut-être que nous ça passera. Mais oui. Parce que regardez les Italiens, c'est quand même différent. On sortait tout un tas de raisons.
Non, on était presque hautains. On disait non mais les Italiens, ils ont un système de santé qui est nul, etc. Ça arrivera jamais chez nous. Et souvenez-vous, même 2 jours, donc on était confiné le 17 mars, même 2 jours avant, le 15, les bars ont fermé à minuit. Il y avait Edouard Philippe qui a pris la parole, il a fermé les bars. Et même là, on pensait pas être confiné un jour. Et c'était 48 heures avant le confinement. Voilà. Et donc, ce graphique, je l'ai publié le 5 mars. Donc, à l'époque, autant dire qu'en France, on parlait très peu du Covid. Enfin, c'était pas du tout une inquiétude. Voilà, et donc j'ai fait ce graphique et ça m'a un peu choqué parce que donc là on voit la ligne bleue et la ligne rouge, et en fait si on décale la ligne bleue, bah, on se rend compte que ça se superpose parfaitement avec l'Italie, donc on a la même fameuse exponentielle, et ça m'a un peu choqué parce que ça contrastait avec
ce que tu voyais passer,
l'ambiance générale, quoi. Ouais.
Ok, et c'est ça qui te donne l'idée. À mon avis, je suis désolé, je reviens un petit peu aux sources, comme ça c'est fait, mais je sais que t'as dû le répéter déjà un million de fois sur 12 000 plateaux. Ça sent que t'es rodé. Il y a un truc, t'as ton pitch, mais faut quand même rappeler pour ceux qui connaissent pas encore ton travail, tout simplement. Ensuite, tu mets en ligne Covid Tracker fin avril 2020.
Ouais. Et puis ça s'est fait progressivement. En fait, j'ai fait ce premier graphique qui est dégueulasse parce que en fait, je voulais juste faire un graphique en deux minutes pour. Enfin voilà, je pensais pas que ça allait devenir quelque chose. Et puis après, je l'ai envoyé à deux trois amis, à ma famille. Et puis chaque jour, ils me demandaient une mise à jour du graphique avec les nouvelles données du genre. Et au bout de
on en a marre.
Au bout de 10 jours, je me suis dit c'est chiant, quoi. À chaque fois, faut que je télécharge les données à la main, faut que je génère le graphique, que je l'envoie par message à tout le monde, etc. Et donc, je me suis dit, je vais automatiser tout ça en Python. Je vais juste faire un script tout bête qui automatise tout ça. Et je vais le mettre sur une page blanche, en fait. Hein. Au début, c'était un GitHub, hein, même. C'était un README de GitHub.
Okay.
Hein,
tu mettais à jour à chaque fois l'image et les gens pouvaient actualiser, quoi.
Exact. Et ça permettait d'avoir un lien stable et de donner ce lien stable aux gens pour qu'ils aient pas besoin de me redemander à chaque fois, quoi.
Ah ouais, c'était vraiment. Je me rendais pas compte à quel point ça a été chronologique, quoi.
Ah, mais oui. Enfin, et puis après, donc, je me suis dit, il faut faire un truc un peu mieux. Et donc, j'ai fait un site web, mais au début, c'était une page blanche. Et j'ai acheté un nom de domaine, et là je me suis dit, tant qu'à perdre de l'argent, enfin c'est pas très cher un nom de domaine, mais
autant prendre un stylet.
Ouais, et du coup j'ai pris guillaumerosier.fr.
Ah non.
En fait je me suis dit, comme ça dans deux semaines, quand l'épidémie sera terminée,
tu parles rentabilisé.
Je mettrai mon CV et je pourrai trouver un job. Et puis malheureusement on connaît la suite. Deux semaines plus tard, je sais pas, il y avait 20 000 vues alors que je m'attendais à ce qu'il y ait genre 3 vues, quoi. Ouais. Et donc j'ai pris le nom de domaine Covid Tracker avec un logo, etc. Et puis voilà, ça s'est amélioré, quoi.
Ouais. Et surtout ce qui. Pardon.
Et à ce moment-là, non, juste là-dessus, t'avais. Parce qu'évidemment, il y avait des initiatives en France, enfin la tienne principalement. Est-ce qu'il y avait à l'étranger des trucs où tu disais, en vrai, c'est cool la façon dont ils le font? Je sais que t'avais. Une université aux États-Unis qui avait leur site là.
JHU, John Hopkins. Exactement. University.
T'avais eux qui avaient leur site, qui j'imagine existe encore.
Ouais.
T'avais Worldometers, je crois, deux, trois sites comme ça qui faisaient leur truc aussi.
Ouais.
Je serais curieux de savoir, mais t'as vu des initiatives un peu similaires apparaître, soit du coup de citoyens tu vois, qui ont créé leur truc, soit davantage d'institutions, c'est celui de John Hopkins.
Alors en Europe, pas tant que ça. Un peu, mais pas tant que ça. Après, je cherche pas non plus activement, mais pas tant que ça. Alors évidemment, il y a la plupart des gouvernements qui ont fait leur propre plateforme, certaines avec plus de succès que d'autres. Mais après, les initiatives privées, pas tant que ça. C'est marrant parce que je discutais avec des journalistes espagnols il y a quelques jours et ils me disaient, en Espagne, on a des plateformes gouvernementales qui sont pas incroyables. Et on n'a pas eu de plateforme citoyenne en parallèle. Alors qu'en France, on en a trois ou quatre, donc Covid Tracker. Donc ça dépend des pays. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'initiatives dans énormément de pays. Enfin, il y en a beaucoup. Si, aux États-Unis, il y en a pas mal, après, dans certains pays européens. Mais par exemple, en Grande-Bretagne, ils ont des plateformes officielles, ou aux Pays-Bas, ils ont des plateformes officielles qui sont hyper bien, hyper intuitives, hyper claires. Donc en fait, il n'y a pas eu besoin, personne n'a eu besoin de faire autre chose, quoi.
Ok, super intéressant.
Ouais, c'est surtout voir l'évolution de ce que tu nous décris, quoi, un petit site avec une page blanche et un truc, et est-ce que c'est aujourd'hui où c'est on peut appeler ça un tracker quand même assez avancé de pas mal de métriques qui sont quand même juste c'est la France, tu vois.
Oui, alors ça c'est le dashboard anglais qui est beaucoup mieux, enfin officiel, du gouvernement.
Ouais.
Qui est très clair.
Qui est un cran au-dessus. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, c'est devenu un truc vraiment complet. Ensuite, t'as eu Vite ma dose lancé le 1er avril.
Ouais, c'était
t'as fait exprès.
Blague. Non. Non, parce qu'en plus, entre le jeu de mots, entre guillemets, Vite ma dose et le 1er avril, sur le coup, il y en a plein. Et puis en plus, c'était un peu.
Mais ce qui est cool, c'est que ça veut dire que t'as pas une équipe de com qui est derrière. Ça veut juste dire que tu t'es dit, bon, allez, je push maintenant. Ouais, et puis voilà.
Exact. C'est vraiment comme ça. En fait, le mardi, j'ai eu l'idée. Et le 1er avril, c'était un jeudi. Et en fait, j'ai juste codé quelques heures. Et le jeudi, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Et je l'ai sorti. Alors, c'était beaucoup
moins gros
que ça.
Deux jours, là, le POC.
Oui, mais la première version était.
Oui.
C'est un POC, comme tu dis. Et donc, il y a pas mal de gens qui ont cru que c'était une blague. Parce qu'en plus, je l'ai tweeté en mode, j'ai fait un truc qui trouve tous les rendez-vous de vaccination en France. Et les gens ont dit, non, mais ça, c'est pas possible.
Ils ont pas tilté que c'était faisable, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc, il y a plein de gens qui m'ont dit, non, mais je croyais que c'était une blague avant que je clique.
Trop drôle. Et du coup, ça nous amène aujourd'hui où tout ça est quand même visité des millions de fois. Je sais pas, toi, tu as des stats assez avancées, mais.
Ouais, bah alors, Covid Tracker, sans Vitmados, que Covid Tracker, c'est en avril, c'était 10 millions d'utilisateurs distincts. Donc, ils sont venus chacun plusieurs fois, donc ça fait plusieurs dizaines de millions, pas vu, quoi.
C'est
ouf.
Ah mais c'est un truc de dingue. Et Vitmados, on a mis le analytics très tard parce qu'on s'est concentré sur d'autres choses avant, un peu dans l'urgence. Mais donc c'est entre 1 et 3 millions d'utilisateurs par jour, quoi. Uniquement Vitmados.
Oh, c'est incroyable. Et tu sais d'où ils viennent? Enfin, t'arrives un peu à, même sur Covid Tracker aujourd'hui, savoir d'où viennent les gens. Est-ce que c'est, t'es bien référencé sur Google? Est-ce que c'est juste des partages sur les réseaux sociaux, des gens qui vont directement dessus?
Ouais, c'est énormément de recherches Google, mais de recherches avec les mots-clés précis. Okay. C'est-à-dire Covid Tracker, Vitmados.
Mais les gens savent
ils savent ce qu'ils veulent, ou alors en direct, via l'URL. Après, il y a pas mal d'articles aussi, mais au final, ça pèse pas non plus énormément dans nos sources. Mais après, enfin, on n'est pas des pros du SEO, et donc on n'a pas énormément de trafic qui provient d'autres mots-clés. Par exemple, des gens qui chercheraient comment se faire vacciner en France, il y en a pas énormément qui tombent sur Vitmados, quoi.
Peut-être Doctolib qui apparaît.
Oui, en premier, complètement.
Ok.
Est-ce que tu, je l'avais vu passer assez tôt, du coup, je savais, mais est-ce que tu savais que tous ces trucs-là, dont t'as dû les traiter régulièrement, comme on rappelle que monsieur fait une vidéo par jour. Tu savais que ça venait d'un indé à l'origine?
Ouais, parce que moi je te suivais depuis quelques temps sur Twitter, du coup j'ai suivi le truc et je pense qu'on t'a cité pas mal de fois dans les... En fait, c'est un peu ce truc où... Ouais, il y a eu ce truc pendant longtemps. Nous, typiquement, on était à la recherche parfois de graphiques, de visuels, de trucs. Et en fait, les trucs publiés forcément par le ministère et tout, t'es pas toujours... parfait ou correspondait pas forcément à ce que vous voulez, le côté clair de la chose et du coup moi je te suivais sur Twitter dès le début, j'ai vu ça et en fait c'est drôle parce que je pense que beaucoup d'entre nous mais y compris du coup j'imagine, je pense aussi les ministères et tout, savaient pas forcément qui t'étais, tu vois. En fait il y a un peu ce qui est apparu. Moi je t'ai suivi, je pense un journaliste a dû partager ou il y avait un truc comme ça, tu vois. Mais du coup je me suis retrouvé là-dessus, je me suis dit ok, c'est super intéressant, pour nous c'est super pertinent, et donc on s'est mis à intégrer pas mal de tes contenus en te citant et tout, et ouais je trouve ça ouf de...
Ce parcours est littéralement insane.
T'as quel âge?
24, 25.
Ouais, parce que, quand même aussi. Enfin, après, je dis ça, on est tous jeunes ici, tu vois. Donc, je vais pas faire genre le daron et tout, mais je trouve ça trop cool.
Oui, mais c'est ça, j'allais dire aussi, d'un point de vue, de tech et, on va parler justement un petit peu maintenant de ce qui se cache derrière tout ça. Mais d'un point de vue tech, il y a un côté hyper, motivant, je trouve, à dire que, pour faire ça, ce que t'as fait, un site, utilisé par des millions de Français, qui rend service à plein de gens, quoi. T'as pas eu besoin de faire 15 ans de dev acharné, d'avoir des skills. Enfin, il y a quand même du skill, on va en parler.
Mais non, il n'y a pas
besoin, quoi.
Moi, j'en étais le premier surpris, d'ailleurs. En fait, je pense que t'as compris, ça s'est fait vraiment progressivement, naturellement. Et je me suis rendu compte de ce que c'était devenu une fois que ça l'était devenu. C'est-à-dire en octobre, en novembre, 6-8 mois après la création du truc. Et en fait, à ce moment-là, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, je me suis dit, mais ah ouais, en fait, on peut faire un truc assez cool, assez facilement, quoi, sans être un
Le niveau d'expertise nécessaire n'est pas forcément corrélé avec le service que tu rends, quoi.
Exact. Mais je pense que c'est plus important de faire un truc qui correspond à un besoin. Mais là, ça se fait, encore une fois, sans réfléchir. Enfin, je me suis pas dit, bah tiens, il y a un besoin, je vais y répondre.
Je vais réfléchir à mes personnages.
Par contre, c'est un truc clair, qui est ultra motivant. Et je pense qu'il peut être aussi ultra motivant, peut-être pour tous ceux qui regardent ce qu'on dit là, c'est que on était dans une situation où il y avait une pandémie mondiale, genre un événement historique, mais enfin tu vois, des trucs comme on aura rarement, peut-être pas une autre fois dans notre vie, enfin tu vois, c'est un truc qui est quand même assez fou, un besoin qui est quand même assez logique, tu vois, on a besoin de savoir les stats quand même et de savoir un peu où on en est. Et de se dire que, en fait, il y a l'initiative est venue de quelqu'un comme toi. Alors, il y a un côté un peu, on peut se dire, putain, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont censées le faire, etc., etc. Mais il y a aussi le truc super kiffant de se dire, bah, tu vois, t'as 24, 25 ans, et t'as monté un truc, comme tu dis, pas forcément avec des compétences en tech qui sont, je connais pas les détails, mais en tout cas, t'as réussi à monter un truc. Et je trouve ça ultra motivant de se dire que, du coup, à notre échelle, on peut avoir cet impact-là et faire ce truc. Et là, aujourd'hui, c'est sur ce sujet, mais demain, ça peut être sur d'autres sujets et d'autres choses. Et je sais pas, il y a un truc ultra, ultra motivant, là, dans ce domaine-là, mais plus généralement, tu vois, en fait, on peut, à notre échelle, faire bouger les choses, quoi.
Carrément. Déjà, t'as une page Wikipédia.
Oui, alors, il y a eu un peu de bataille pour ça, parce qu'en fait, il y a quelques mois, il y a une personne qui me follow sur Twitter qui a essayé de créer la page Wikipédia. Et en fait, il y a eu un gros débat sur Wikipédia. Il y a un mec, il y a un admin qui l'a supprimé. Après, il y en a un autre qui l'a refait. Et quand tu regardes les logs, en fait, ils se battent, ils s'insultent et tout en disant, ouais, non, mais il est pas assez connu. Ouais, mais si. Et c'est trop drôle. C'est hyper drôle.
Je sens que j'ai eu même un gars sur Twitter qui m'a fait, ouais, est-ce que tu veux que je crée ta page et tout? Ouais. Je sais pas, enfin, en mode, éventuellement, mais je sais pas si c'est légitime ou pas. Pareil, du coup, c'était trop drôle. J'allais voir le truc comme discussion. Et c'était non, c'est trop récent. Il faut que ça ait plus de 3 ans, qu'il soit connu depuis plus de 3 ans.
Avec des articles qui référencent depuis plus de 12 mois.
C'est
je sais
ouf.
Pas quoi.
Ah, c'est ouf. Mais en fait, j'ai l'impression que la page Wikipédia, c'est vraiment un badge certifié. En fait. Ouais. C'est vraiment c'est l'équivalent de la certif Instagram. C'est que, après, tu peux le montrer. Voilà. Je suis quelqu'un, c'est bon. sur le côté vraiment plutôt technique, justement, de ce qui se cache derrière tous ces services que t'as monté. Est-ce que c'est correct si je dis que tout est quand même pas mal basé autour du scrapping de données et de la data science?
Oui, carrément.
Est-ce que peut-être, donc ça veut dire que c'est des notions qui sont hyper importantes. Est-ce que tu peux les définir pour ceux qui les connaissent peut-être pas?
Alors la data science, on me demande beaucoup parce qu'en fait c'est mon métier. J'ai un CDI en data science. Enfin, je suis data scientist. Et on me demande beaucoup, enfin surtout les journalistes ne comprennent pas du tout ce mot-là et me demandent ce que ça veut dire. Moi j'aime bien dire que la data science, c'est les différentes techniques qui permettent de traiter des masses de données informatiques, donc le fameux big data. Donc c'est tous les algorithmes, toutes les techniques qui permettent de traiter ces données pour apprendre, pour faire de l'apprentissage, pour prendre des décisions, pour faire tout un tas de tâches. Et donc c'est la fameuse intelligence artificielle, machine learning, ces buzzwords qui veulent pas forcément dire quelque chose, mais donc c'est toutes ces techniques algorithmiques, statistiques ou autres qui à la fin vont permettre d'apprendre quelque chose autour de la donnée, autour de la donnée informatique pour vraiment la rendre utile. Donc soit la mettre en lumière, soit la comprendre, soit prendre des décisions. Enfin, par exemple, une Tesla qui conduit automatiquement, derrière...
C'est bien beau d'avoir 10 000 capteurs, mais en fait, il faut en faire quelque chose. Quoi.
Oui, ça produit des masses de données énormes, parce que c'est 8 flux vidéo en stream, une Tesla, c'est des capteurs
on peut faire le calcul, rien qu'une caméra, le nombre, la matrice de pixels, la valeur du pixel multiplié par le nombre de caméras envoyées tant d'images par seconde. C'est déjà vertigineux, quoi.
Carrément. Et après, sur ces flux d'images, il faut appliquer des algos pour détecter des formes, la route, les lignes, etc. En un temps le plus rapide possible, parce que ça doit être
mamie, n'est-ce pas?
Et donc c'est des techniques poussées. Et donc le métier de data scientist, c'est de maîtriser ces techniques pour qu'elles fonctionnent bien, qu'elles aient de bons résultats dans des temps, avec une certaine efficience.
Ok, excellente définition.
Et le scrapping, une manière informatique de récupérer des informations sur un autre site internet, donc de faire des requêtes pour récupérer des données ailleurs.
Parce que on a potentiellement déjà parlé à plusieurs reprises de ce que c'est une API, par exemple.
Ouais.
Donc une API étant une interface qu'on peut utiliser en tant que développeur pour récupérer des données d'autres sites. Ça c'est la version quand on t'a préparé le chemin, c'est-à-dire que c'est si jamais ce serait bien d'ailleurs que ce soit le cas partout, mais ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il y a énormément de sites qui n'ont pas prévu ça. Ils ont prévu des interfaces avec les humains, mais pas, ils n'ont pas prévu des interfaces avec les sites des copains ou les programmes de prestataires, enfin voilà. Et donc on est obligé d'avoir recours à d'autres techniques comme le scrapping. Très concrètement, si tu dois nous imaginer à quoi ça ressemble. Comment ça se passe?
La première version, par exemple, de Vitmados, je peux te donner un exemple. En fait, c'était plus presque de l'automatisation, presque plus de l'automatisation que du scrapping. Et donc, en fait, ça simulait un humain qui va sur Doctolib, qui clique sur premier rendez-vous Pfizer, et ensuite qui détecte dans le calendrier qui s'affiche sur Doctolib le premier rendez-vous dispo. Et en fait, c'était ça. Enfin, c'était en Python, il y avait des algos, mais c'était de l'automatisation finalement de comportement humain.
C'était Selenium?
Ouais, c'était Selenium, ouais. Mais du coup, c'est hyper lourd, c'est hyper lent, c'est pas efficace, ça met du temps. Enfin, voilà, pour la toute première version, je mettais 5 heures pour scanner toute la France uniquement pour Doctolib.
Ok.
Donc à chaque mise à jour, ça mettait 5 heures. Et ça, c'était la première version de Vitmados qui est sortie le 1er avril. Quoi.
En fait, c'est comme tu dis, c'est comme si quelqu'un passait vraiment 5 heures de sa journée à cliquer sur tous les boutons pour checker tous les rendez-vous. Et encore, il le fait bien plus vite qu'un humain, normalement.
Ouais, mais bon, après, il y a des trucs cons, parce que genre, imagine si tu sélectionnes le champ première vaccination, machin, après, il faut attendre 2 secondes pour que le calendrier s'affiche, donc tu vois, t'es obligé de mettre des wait, enfin des
temps d'attente et tout. Ah ouais, c'est un affaire.
C'est pas propre du tout.
Mais vous en avez entendu parler, normalement, si vous avez regardé ma vidéo sur Tinder. Où j'ai fait un bot Tinder, bah c'est, j'utilisais une c'était pas pétir mais ouais. c'est l'équivalent donc voilà, on utilise les mêmes technologies, c'est beau, sauf que moi je rends pas service à grand monde. avec un bot Tinder.
Ah, bon. Avec un bot Tinder, je sais pas, mais
on essaye de faire des émissions en tout cas. C'est notre part du truc. Donc OK, scrapping de données, ça on a compris. Non, mais c'est bon.
Alors, mets toute la vidéo, vas-y, c'est parti. Hein, j'ai pas de...
Scrapping de données, ça nécessite d'avoir des sources, forcément. Ouais. Ça veut dire que c'est pas tes données. On rappelle que c'est donc un des trucs les plus importants, les données pour pouvoir.
Ah bon, on peut
faire
rien faire.
Voilà, sans données, on fait
sans
pas
données,
de.
On peut rien faire.
Pas de science de données, littéralement. Et donc, le scrapping nécessite des sources. Ces sources, ce sont lesquelles? Comment tu les sélectionnes? Comment tu les trouves? Est-ce qu'il y en a qui sont plus chiantes que d'autres? Comment tu fais ça?
Ouais, alors pour Covid Tracker, les sources, c'est les administrations publiques. Donc, c'est que des données officielles publiques qui sont publiées en open data, en grande partie par Santé publique France, mais pas que. Par exemple, les données sur le nombre de lits qui sont dispo à l'hôpital, ce genre de trucs, c'est l'adresse. L'INSEE publie les décès. Enfin, voilà, on a d'autres administrations. Mais donc, c'est que des organismes publics. Qui les publie sur une plateforme, enfin en bonne partie sur une plateforme qui s'appelle data.gouv.fr, qui est la plateforme qui centralise, enfin qui est censée centraliser, c'est une plateforme gouvernementale qui est censée centraliser tous les jeux de données publics en France. Après, bon, il y a d'autres administrations qui ne les mettent pas forcément sur data.gouv, comme l'INSEE, ça reste sur leur site par exemple. Mais donc voilà, donc Covid Tracker se source en très grande majorité sur cette plateforme. Alors après, il y a eu des données qui ont été un peu plus compliquées à obtenir que d'autres. Certaines données ont été présentes, déjà publiées naturellement. D'autres, c'était un peu plus compliqué. Par exemple, pour la vaccination, on a lancé Vaccin Tracker, qui est l'outil de Covid Tracker qui permet de suivre la campagne vaccinale. On l'a lancé le 27 décembre. C'était le jour où Morissette s'est fait vacciner. Vous vous souvenez, je pense, on a tous vu l'image à BFM de Morissette, la première à se faire vacciner en France. On l'a lancé, on n'avait aucune donnée. Public, on n'avait aucune donnée officielle, le gouvernement ne publiait rien, on ne savait pas. Et donc là, en fait, on a collecté nous-mêmes les données, c'est-à-dire qu'on prenait la presse locale. On regardait tous les articles. Ouais, mais c'était pas dur au début, parce que ça a commencé vraiment doucement. Ouais. Et donc on prenait tous les articles du type dans les pattes de Nancy, 8 personnes ont été vaccinées, et nous, on faisait plus 8 à notre compteur, quoi.
Ah, insane. Ah ouais, ok, vraiment, le début du truc.
Et en fait, c'est devenu un peu le compteur officiel des médias, enfin pas officiel, mais le compteur des médias, parce qu'il n'y avait pas d'autres chiffres, quoi. Donc on n'avait que ça. Et donc au bout de quelques jours, il y a le cabinet d'Olivier Véran qui m'a contacté, et ils m'ont dit, si vous voulez, on peut vous donner des données qui sont un peu plus à jour. Donc là, c'était mieux, ils m'envoyaient les données, mais ces données-là, en fait, ils les envoyaient qu'à moi. Même les médias n'y avaient pas accès, je sais pas trop pourquoi. Et donc au bout de 15 jours...
La démarche est spéciale quand même déjà, honnêtement.
Et donc au bout de 15 jours, on a dit, on arrête de publier les chiffres que le ministère nous donne en privé, quoi, quelque part. Et puis le lendemain, ils ont mis en place, alors je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais le lendemain, ils ont mis en place l'open data. Et donc depuis ce jour-là, on a les données de vaccination qui sont libres et exhaustives sur Internet. Et donc on a branché maintenant Vaccin Tracker dessus, quoi.
Ok. Donc, Vaccin Tracker sur ça, Covid Tracker sur des administrations plutôt. Déjà, c'est d'un point de vue vraiment à quoi ressemble la donnée. Là, il le publiait dans un format intelligible, genre pour un programme.
Ouais, ça va. Honnêtement, ça va. En l'occurrence, pour la vaccination, quand il me donnait les chiffres, il me les donnait en message, quoi. Donc c'était pas
d'accord, c'est le petit DM.
Donc ça dépend des moments, mais sinon, la plupart du temps, c'est des CSV. C'est très agréable niveau programmation. Ouais. Il y a une API, on l'utilise pas parce qu'en fait, c'est plus compliqué. Donc on récupère directement les CSV. Enfin, c'est automatisé, mais on récupère directement les CSV. Après, des fois, ils s'amusent à changer les séparateurs.
Sympa.
Donc on est obligé de faire des petits ajustements pour.
C'est-à-dire au cours du temps ou suivant les
jours, ouais. Non, au cours du temps. Ouais.
Ah oui, d'accord. Et j'imagine qu'il n'y a pas une petite version de l'API ou
Non. Et donc, alors maintenant, on détecte automatiquement pour corriger, mais après, il y a des problèmes qui sont un peu plus compliqués à corriger.
Je te rends compte quand même toute l'intelligence, la puissance de calcul cérébral de nos beaux ingénieurs mis à résoudre un problème qui consiste à changer de séparateur dans XML
sur des données publiques.
C'est beau.
Et il y a la même chose avec les dates. Hein. Est-ce que tu mets des slash entre les, tu sais, genre 01
Oui, normalement, je fais une version d'API si tu changes ça, ouais.
Oui, bah là, bon, on va pas se plaindre, ça arrive relativement rarement.
C'est déjà,
mais
c'est déjà bien qu'on ait la donnée.
Ouais, c'est ça, exact.
Donc ça, c'est Covid Tracker et Vaccin Tracker.
Ouais.
Et ensuite, sur Vitmados, ce que tu nous expliquais, c'est qu'au début, t'allais, enfin, c'est pas toi qui y allais, mais ton programme allait à la main sur Doctolib. Maintenant, en gros, c'est quoi tes sources et comment tu opères?
Bah, en fait, au début, c'est moi qui allais manuel. En fait, j'ai décidé de l'automatiser pour la première version de Vitmados.
Ah oui, déjà, le Selenium, c'est déjà une upgrade,
oui, c'est déjà une upgrade
de tes nuits de travail.
Mais oui, en fait, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Vitmados. C'est que j'ai dû chercher un rendez-vous de vaccination pour un proche qui était éligible. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui râlaient en disant, il n'y a pas de rendez-vous, on peut pas se faire vacciner. Et de l'autre, je me suis rendu compte qu'en rusant un petit peu, on pouvait trouver plein de rendez-vous. Et à très court terme, pour aujourd'hui, pour demain, etc. Et donc, au début, je l'ai fait manuellement. Et après, je me suis dit, bah, il faut l'automatiser sur toute la France, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai perdu la question. C'était les sources de données.
Oui, c'était, du coup, tu parlais de Doctolib. Maintenant, c'est quoi les autres sources? Et tu nous disais qu'avant, c'était 5 heures. Ça veut dire que maintenant, ça a changé. Qu'est-ce que t'as fait pour résoudre ton problème?
Bah, alors là, en fait, quand j'ai sorti la première version, qui était donc très lente, très perfectible, mais qui avait super bien marché en 24 heures, il y avait déjà plein de gens, plein de retours et tout. Donc j'ai lancé un appel sur Twitter en disant, bah, les gars, s'il y a des gens qui sont chauds en scrapping, etc., rejoignez-moi. Et là, il y a 110 personnes qui ont rejoint. J'ai fait une conversation, qui ont rejoint. Et des gens hyper chauds. Et à partir de là, ils ont travaillé presque jour et nuit.
Parce que le scrapping, ça peut être vraiment crâne. Hein. Ça peut être vraiment, voilà.
Et donc à partir de là, il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont travaillé presque jour et nuit. C'était rigolo au début, ça faisait presque les 3-8. Il y a des gens qui travaillaient plutôt la nuit, d'autres plutôt le matin, plutôt l'après-midi.
La dream team
générale, incroyable.
Et ils ont tout refait. Et donc ils sont basés sur les API. Enfin en fait, ils ont enquêté parce qu'on n'a pas les API de Doctolib.
Comme
Hugo. Et donc ils ont essayé de décrypter.
Si tu oublies le mot décrypter ici, je sens qu'il est jamais le bienvenu. Toujours des gens qui disent.
Ah non, là, si tu sors de décrypter, t'as 20 mecs à la batte là.
Et donc ils ont essayé d'enquêter sur les API publiques de Doctolib. En gros, ils ont essayé de voir quand tu vas sur Doctolib, quels sont les appels API qui sont faits vers la base de données pour récupérer les données pour les afficher au front de Doctolib. Ils sont basés là-dessus. Ça a mis du temps parce que c'est compliqué à comprendre, etc. Et depuis, c'est beaucoup plus rapide. On scanne toute la France en moins d'une minute pour Doctolib. Et on a rajouté, et depuis, il y a beaucoup
from
plus de centres.
From 5 heures, tout une minute, c'est propre.
Et puis au début, il y avait genre 500 centres. Maintenant, il y en a 2000, quoi. Donc en plus, le nombre de centres a augmenté. Okay. Voilà. Et aussi, ils l'ont adapté à toutes les autres plateformes, enfin presque. Donc on connaît tous Doctolib, mais il y a aussi Keldoc, Maya, Ordoclic, MaPharma pour les pharmacies aussi. Et donc, ils se sont adaptés à toutes ces plateformes aussi.
Et donc, pour expliquer, parce que on peut dire, attends, mais c'était ton projet, comment t'embarques 100 personnes dans ton projet, pour ceux qui sont peut-être pas habitués au développement open source,
ouais.
Parce que c'est ça la clé, c'est que c'est open source, du coup.
Ouais, carrément.
On peut aller voir le code, c'est sur GitHub, j'imagine.
Ouais.
Et voilà, en fait, quand tu dis qu'il y a une centaine de personnes qui t'aident, c'est qu'en gros, c'est au moins 100 personnes qui ont effectué une petite modification, ou une grosse modification, hein. Mais c'est en fait c'est du fait que tu l'as pas gardé aussi pour toi que t'as rendu ça possible, quoi.
Ouais, bah ça, ouais, on voit le GitHub, ça, je pense que ça n'aurait jamais été possible si ça avait pas été open source, quoi. Moi, j'ai pas les compétences pour faire tout ça, enfin je peux pas avoir les compétences dans tous les domaines, ouais. Quoi, donc et là on a des gens qui ont vraiment des compétences très variées en informatique ou pas d'ailleurs, hein. Il y a des gens, par exemple, il y a une personne qui nous a fait une vidéo hier pour faire en gros un peu la promo, enfin gratuitement, mais
ouais,
la promo de Vitmados, bah voilà, enfin elle est pas du tout développeuse. On a un graphiste, bah, qui a fait la charte graphique, le logo, on a
qui est propre, et... hein, franchement,
bah ouais, ouais, bah merci pour lui, Adrien Rocher, et je crois qu'il cherche un job en plus.
Ah,
d'être
maintenant
on a des développeurs iOS
devant,
voilà, dans le top 100 en France, donc on a des développeurs iOS, Android, web, enfin voilà,
c'est insane.
Des compétences vraiment très variées, quoi. Ça aurait été pas possible si c'était pas open source, quoi.
Bah et cool. De ouf. J'ai une question vraiment débile, hein, mais sur le côté, tu parlais d'agréger autant de plateformes, etc., et du fait que tu peux t'update à une minute, probablement qu'il y a probablement une réponse toute bête, hein, mais tu vas pas les DDoS à un moment si tu leur envoies autant de requêtes là.
Si, oui, alors on a fait très attention à ça. Alors Doctolib, ils ont une infrastructure qui est assez solide, enfin c'est les leaders. C'est pas le cas, je vais pas nommer, mais c'est pas le cas de tous. et du coup, en fait, quand on a commencé à faire nos expérimentations, on a remarqué qu'il y avait une ou deux plateformes, on commençait à faire des requêtes, et au bout d'un moment, bah, ça répondait plus. Ou alors ça mettait beaucoup de temps.
Juste en train de casser le site, en fait, avec tes requêtes.
Mais en fait, c'est pas notre objectif, hein, on veut pas du tout, voilà. Et donc, on les a contactés immédiatement, enfin, on les a tous contactés, pour vérifier, enfin, pour voir quelles étaient leurs limites, pour voir comment on pouvait éviter de les surcharger. Après, aujourd'hui, on leur apporte des patients. Donc enfin
ils ont tout
aussi.
Intérêt à être trouvés, ouais.
Mais c'était compliqué pour Doctolib en l'occurrence, on au bout de un scrapping, enfin si on scrape toute la France, après on est bloqué, enfin il y a des bloqueurs pour justement pour détecter les attaques DDoS, donc on est bloqué. Et donc on s'est mis d'accord, ils nous ont proposé gentiment,
ils vous ont mis une liste blanche,
voilà, exactement. Et donc maintenant on est
des mots français.
Ah c'est beau. Hein.
Une liste
c'est
blanche
beau.
Voilà. Donc, et donc maintenant on est whitelisté, donc on peut faire autant de requêtes qu'on veut, mais on met des temps d'attente entre deux requêtes pour éviter que ça les surcharge trop, quoi, parce que c'est vraiment pas notre objectif de les mettre à terre.
Bah non, clairement.
C'est, voilà. Donc
en fait ils pourraient faire aussi un système de, parce que là vous êtes obligé de faire du polling, c'est ça?
Ouais.
Donc c'est qu'en gros tu récupères tous les X secondes une information.
Oui,
c'est bien ce que vous faites à l'heure actuelle.
Ouais.
Bah, en fait, il n'y aurait pas besoin de faire si eux, il y avait un système de publication et souscription. Je sais pas si c'est français.
Si, c'est ça. Mais je pense pas que ce soit à nous de leur imposer ça. Je pense.
Non, mais ma question c'était, est-ce que eux, ils y ont pensé ou potentiellement avec notamment votre service?
Non, je crois pas, mais par contre, ce serait une bonne idée que le gouvernement lance cette idée, c'est-à-dire de faire une API commune finalement. Il y a une interface commune où chaque plateforme se branche. Et ensuite, nous, de l'autre côté, on pourrait se brancher vraiment avec un endpoint.
Et écouter les events.
Et ça pourrait économiser beaucoup de ressources et être beaucoup plus pratique pour nous. Voilà, parce qu'on est obligé de s'adapter à chacune. En plus, ils changent régulièrement leur API. Et donc, à partir du moment, s'ils changent la syntaxe de leur API, bah, nous, ça casse tout.
Ça casse tout, vous êtes obligé d'interfacer 10 000 trucs. C'est pas forcément votre job, quoi,
exact.
À l'origine, on va
donc
dire.
Ça pourrait être une bonne idée de faire une API commune à toutes ces plateformes. Ouais.
Ok. Sur le si on suit un peu le chemin pour arriver à la fin à build Covid Tracker et Vitmados, t'as une partie hyper importante qu'on pourrait oublier, c'est l'affichage en fait. C'est qu'une fois que t'as ces données là, bah faut les traiter et les afficher. Si j'ai bien compris, on appelle ça aussi la partie data visualisation.
Ouais, exact.
C'est quoi en fait, bon, est-ce que tu peux nous expliquer déjà en quoi ça consiste exactement? Ça va quand même au-delà de juste afficher un graphe comme c'était le cas avec ton premier graphe Twitter. C'est quoi la data visualisation et c'est quoi ce qui est un peu ce qui caractérise en fait ce métier là, parce que je crois qu'il y a vraiment des gens, c'est limite leur métier de faire ça.
En data ça représente toute la chaîne de la donnée. Il y a trois grandes catégories ou trois ou quatre. Il y a la partie data engineer, ingénieur data, et donc là c'est plus comment on collecte des données, comment on les stocke, comment on les traite, mais c'est vraiment l'ingénierie de la data, de la donnée. Après il y a la partie data science, donc là c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quels algorithmes on applique à ces données qui ont été collectées, qui ont été stockées, quels algorithmes on applique pour apprendre des choses, pour prendre des décisions, etc. Et puis tout au bout, il y a la partie data visualisation, et puis business intelligence aussi, ou data analyst. Une fois que ces données ont été collectées, stockées, traitées par tous les autres métiers au début de la chaîne de la data, ensuite c'est comment on les visualise pour les mettre en lumière, comment on les agrège, on les visualise pour faire, comment on les hiérarchise pour comprendre ce qui est important dans la donnée. Ouais.
En fait, c'est comment tu transformes un bordel de données en truc intelligible.
Ouais. Comment on éclaircit le brouillard, ouais, c'est ça, exactement. Et après, quelles décisions on prend à partir de ces mises en valeur de données.
Ce que j'allais dire, c'est que tout au bout de la course, il y a évidemment l'objectif d'informer d'une certaine façon. Et il y a évidemment tout un travail d'interprétation des chiffres que tu as et de ce que tu vas avoir. Ok, tu as un graphe où tu as une courbe qui monte ou un truc qui descend, machin. Mais c'est un métier à part entière dans une certaine mesure, parce que tu as évidemment des épidémiologistes ou autres qui vont travailler sur ce genre de choses. Moi, je suis curieux de savoir comment est-ce que tu te situes là-dessus, parce que je vois sur Twitter évidemment que tu produis ces graphes, ces machins, et que tu vas les diffuser. Et je vois aussi que tu te bases parfois sur des épidémiologistes, pour un peu essayer de interpréter d'une certaine façon ces données-là. Comment est-ce que toi tu te situes un peu sur ces dimensions interprétation et des données que tu vas pouvoir sortir et publier?
Ouais, alors ça c'est vraiment un grand sujet. À partir du moment où on fait une visualisation de données, il y a forcément de la subjectivité. Ça peut paraître bête, mais un choix de couleur, un choix de taille, un choix de proportion, même de type de graphique. Si tu fais un graphique en barre ou en ligne, ça communique pas la même information. Hier, d'ailleurs, je ne veux pas citer, mais hier, il y a un média qui a fait une carte de France avec tous les départements qui étaient en dessous de 400 en incidence, tous les médias qui étaient au-dessus de 400 en incidence. Et l'incidence, c'est le nombre de cas de Covid. Et tous ceux qui étaient en dessous étaient en vert, tous ceux qui étaient au-dessus étaient en rouge. Mais en fait, 400, c'est hyper élevé. Donc de dire qu'à 399, c'est vert.
Et le gouvernement avait été aussi là-dessus un peu critiqué. Ils ont fait tellement de conférences de presse, mais sur certains graphiques ou autres, où tu disais,
il manque des courbes parfois.
Soit il manquait des choses.
La France n'est pas là, c'est sur
certains. Soit il manquait des choses. Soit, c'était très. Il y a une part de subjectivité, comme tu dis, de dire ça, c'est vert. Donc dans l'imaginaire des gens, vert, c'est positif, alors que. Tu peux quand même te poser la question du est-ce que ce chiffre est vraiment positif, quoi.
Exactement. Et puis en plus, des fois, si on regarde un seul indicateur sans prendre en compte un autre indicateur, il peut y avoir un biais auquel on pense pas. Évidemment, par exemple, les tests, les cas de Covid, ça dépend des tests. Donc, si tu regardes uniquement la courbe des cas sans regarder la courbe des tests, il y a un biais. Et donc, je pense qu'une des clés là-dedans, c'est de la diversité, la pluralité. Moi, je suis d'autres gens qui font des graphiques, je regarde ce qui se fait. Et des fois, je me rends compte que moi, j'ai été biaisé par une couleur, une taille ou autre. Et que donc c'est intéressant de voir les autres points de vue. Et la deuxième clé, je pense, c'est le côté open source, le fait que le code soit libre. Et donc, si quelqu'un trouve qu'il y a vraiment un traitement qui est aberrant, qui déforme la réalité, il peut tout simplement modifier le code. Ensuite, c'est soumis finalement à toutes les personnes qui vont review ce code. Et ensuite, c'est en gros presque un système de vote, quoi. C'est la majorité qui l'emporte pour accepter ou pas la modification, quoi.
Et puis, tu as plein de choses, j'imagine, qui sont... par exemple, on a eu tout sur les tests comme sur la vaccination, sur une même semaine et sur différentes semaines, des variations notamment sur la semaine ou le week-end. On va avoir moins de tests ou même des remontées lors du premier confinement sur le nombre de cas ou le nombre de décès où il y avait des données qui prenaient du temps à remonter, qui venaient un peu plus tard, etc. Et parfois on avait des gens qui se disaient mais attendez, comment ça aujourd'hui on a que X personnes vaccinées ou que X décès ou à l'inverse tant de décès tel jour. Et je pense que là aussi en termes d'interprétation et d'explication, il y a un vrai travail de dire aujourd'hui vous avez peut-être l'impression que parce qu'on a juste le chiffre brut de tel jour X personnes vaccinées. Sauf que faut bien comprendre que tel jour, il y en a beaucoup plus, il y en a beaucoup moins parce que il y a ce contexte politique ou les remontées qui prennent plus de temps ou les choses qui jouent, quoi. Et c'est tout un taf.
Oui, carrément. Ouais. Et le fait de faire un graphique, déjà, ça permet d'éviter ces biais-là au maximum. Totalement. Parce qu'on contextualise la donnée. C'est clair. Moi, je me souviens d'un cas, c'était le premier tweet que j'avais fait. J'étais inconnu, vraiment inconnu à l'époque. Et j'avais eu plusieurs milliers de likes, donc c'était le feu pour moi. et en fait, je réagissais à un journaliste, que je ne vais pas nommer. Et donc, on était en mai 2020, en plein déconfinement. L'épidémie était en décrue, ça s'améliorait, quoi. Il n'y avait aucun doute. Et là, il tweetait, il y a beaucoup plus de décès aujourd'hui qu'hier, sous-entendu ça va mal, mais en fait il a comparé un lundi avec un dimanche, et le dimanche il y a le personnel hospitalier, il travaille beaucoup moins, ils saisissent beaucoup moins les données que le lundi, donc le dimanche c'est très bas, le lundi il y a des rattrapages, donc
en fait quand tu mets les deux jours d'avant et les deux jours d'après,
en fait si tu fais le graphique, mais en fait tu vois le schéma d'une semaine qui se reproduit, en fait avec le dimanche très bas, le lundi très haut, et donc en faisant un graphique tu comprends tout de suite
il y a des variations locales qui sont pas représentatives.
C'est un peu le biais des gars qui font qui check la météo du jour et qui conclut sur le dérèglement climatique, alors que c'est pas comme ça que tu vois la question du climat, là tu vois la question de la météo, la dernière heure, du climat, quoi, sur le long terme.
J'ai une question qui revient vraiment très souvent, c'est combien ça te coûte en fait, en termes d'infra, de serveurs, d'hébergement, c'est quoi?
Il y a une infra qui est sobre, en fait. Hein. C'est vraiment très sobre. Pour Covid Tracker, on a un VPS, donc c'est un serveur privé.
D'accord.
C'est pas un cluster. Non, c'est un VPS.
OK.
Et ça absorbe le flux après d'une manière. On a dû ruser un petit peu. Par exemple, il y a du contenu qu'on stocke sur GitHub. Et GitHub a un CDN incroyable. Et donc, du coup, en fait,
avec ça, tu t'en sors, quoi.
80, par exemple, les images, c'est sur GitHub. Et donc, ça absorbe 80% du trafic. J'ai pas une somme précise, ça dépend ce qu'on compte. Par exemple, pour Vitmados, là, on utilise un gros serveur pour faire les requêtes, pour faire le scrapping, que OVH nous a prêté pour l'instant, mais qu'il va falloir qu'on paye un jour, qui coûte beaucoup plus cher. Donc ça dépend ce qu'on prend en compte. Par exemple, la newsletter, qu'on envoie une newsletter à 100 000 personnes chaque mois, ça coûte plusieurs centaines d'euros par mois. Après, le serveur, c'est plusieurs dizaines d'euros par mois. C'est pas 10 000 euros par mois, quoi, ou c'est pas 10 000 euros par jour.
C'est ouais. marrant parce que tu as une appli comme Tous Anti-Covid, je crois que ça coûte 150 000 balles par mois. C'est marrant.
Mais alors après, enfin lors des charges, nous, par exemple, on n'a pas de base de données. Ouais. Enfin, pas, en tout cas, pas avec de l'écriture, avec des utilisateurs, avec des infos personnelles, etc. Donc,
oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, peu, c'est une énorme simplification. Ça me faisait juste plaisir. C'est une petite pique gratos. Mais c'est tout, enfin, c'est peu de thunes, mais c'est quand même de la thune. Qui paye, en fait?
Eh ben, c'est, alors, Covid Tracker et Vitmados, c'est à but non lucratif. Donc, il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de placement de produits, il n'y a pas de, c'est gratuit, enfin, il n'y a pas de partie privée avec abonnement ou autre. Mais donc, les gens peuvent soutenir les frais techniques justement pour éviter qu'on sorte de notre poche en faisant des micro-dons sur le site.
Ok.
Donc voilà, donc ça nous permet de, bah, d'éviter de payer de notre poche tous ces frais-là, quoi.
Oui, voilà. J'allais me demander si par exemple c'était un truc qui aurait pu être remboursé ou qui aurait pu avoir une aide gouvernementale ou non.
Bah, après, c'est.
Ça n'a pas été évoqué en tout cas.
Non, ça peut être évoqué. Je ne sais pas si on accepterait parce que on tient aussi au côté indépendance, c'est-à-dire que personne n'a d'influence sur nous. On fait ce qu'on veut finalement, et à partir du moment où quelqu'un te finance, bah après, je veux pas que les gens croient que du coup on se sent ouais, redevable vrai. Et que
après les données, tu les tires quand même sur Covid Tracker par exemple. Oui. Tu les tires de toute façon des administrations. Tu vois, donc s'ils veulent t'enfler, ils vont t'enfler. Hein.
Oui, mais on pourrait, tu vois, on pourrait modifier certains graphiques ou ne pas en afficher certains pour faire plaisir à un tel ou un tel. C'est pas du tout notre objectif, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on, autant que possible, je pense qu'on préfère être soutenu par les citoyens, quoi.
Du moins, j'imagine, tant que ça reste aussi raisonnable, je pense, dans les coûts.
Ouais, ouais.
Mais en espérant que ce soit le cas. Et puis, vous pouvez aussi aider, voilà, faire un petit tip, voilà, don à Covid Tracker. N'hésitez pas.
J'adore juste le source internet.
T'as vu
il est vrai, c'est trop fort.
Peut-être un jour, on le remplacera par là, vraiment ce qui se passe, mais il a un côté attachant. Je vais peut-être le laisser comme ça, je pense. T'as cette visibilité que t'as gagnée en quand même pas beaucoup de temps, quoi. Tu l'as mis à profit. Notamment pour mettre en avant le principe de l'open data. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, ce qui se cache derrière le terme open data?
C'est facile, open data, ouvrir les données, données ouvertes plutôt, et donc c'est le fait de publier des données dans un format qui est compréhensible par une machine, donc qui peut être automatisé, donc typiquement une API, un CSV, enfin n'importe quoi, mais quelque chose qui peut être automatisé par un PDF, quoi, pas une image où là on peut pas en faire grand chose. Et donc c'est le fait de publier ces données sur Internet de manière libre, gratuite et accessible à tous. Et donc en France, ça se passe en bonne partie sur la plateforme data.gouv.fr, qui est donc la plateforme officielle, enfin la plateforme, on va dire, publique, qui permet à chacun, toi, moi, on peut publier des données. D'ailleurs, Covid Tracker est producteur d'open data, puisque par exemple, sur Vitmados, on a référencé les données de Vitmados sur data.gouv. Donc les données sur les rendez-vous disponibles, etc., sont disponibles en open data, en JSON, en fichier JSON. Donc c'est,
ah oui, donc en fait, ce que tu décrivais de centraliser un petit peu toutes les sources, bon, au final, vous le faites, quoi.
Du coup, on l'a un peu fait, ouais. Du coup, on l'a un peu fait, et c'est hyper cool. Il y a des mairies, du coup, qui réutilisent ça. Il y a des gens dans des mairies qui m'ont dit qu'ils avaient refait sur le site de la mairie un petit widget qui affiche du coup les prochains rendez-vous dispo, et ça se met à jour automatiquement, du coup. Voilà, donc c'est hyper cool. Et donc l'open data, c'est ça, et donc c'est la publication de ces données-là. Et donc c'est hyper important de publier ces données-là. C'est pour ça que, comme tu l'as dit, j'essaie de mettre à profit ma petite notoriété pour promouvoir ça. Sans open data, Covid Tracker n'aurait jamais pu exister. Ça n'aurait pas été possible. Déjà, on n'aurait pas eu l'idée, on n'aurait pas eu l'envie, et puis ça aurait été techniquement impossible. Et donc, quand on voit les bénéfices que ça a amené sur l'épidémie, on peut imaginer les bénéfices que ça pourrait amener sur la santé de manière globale, sur l'économie, sur l'écologie, sur la transition énergétique, dans plein de domaines, quoi. Et donc, c'est hyper important.
Parce qu'en fait, il faut dire aussi que des gars comme toi qui ont des compétences et qui s'ennuient le soir, il y en a plein et qui seraient hyper contents de pouvoir faire joujou avec un max de données.
Et puis nous, c'est le fait d'avoir les données qui nous a inspiré, qui nous a donné envie. C'est pas l'inverse, en fait. On s'est pas dit, on a envie de faire un truc, donc on va chercher les données. Non, on a eu les données et donc ça nous a donné envie de faire ça.
Et la France, niveau open data, comment est-ce qu'on se situe? Donc il y a le site DataGouv, etc. Est-ce qu'on est bon par rapport aux voisins européens, aux Américains ou autres, ou est-ce qu'on manque un peu d'ambition?
Alors, ça va pas assez loin, c'est pas assez ambitieux, mais honnêtement, on est à un stade assez avancé par rapport à d'autres pays. On a créé en 2010, donc ça remonte quand même un peu. En 2010, on a créé Etalab. Etalab, c'est un peu l'organisation justement qui gère tout ça. Donc ça met du temps, au fur et à mesure des années, on y arrive tout doucement. En 2016, il y a une loi numérique qui est passée. et dont le but est de changer le paradigme. En fait, initialement, le paradigme, c'était, pour les administrations, consistait à dire on ne publie aucune donnée, par définition. La norme, c'est on ne publie rien, sauf si éventuellement, si un truc peut être utile, on peut le... Voilà. Et le nouveau paradigme, normalement, c'est on publie tout. Donc la norme, c'est la publication.
Sauf ce qu'on veut pas publier.
Sauf si c'est sensible, si ça respecte pas la vie privée, dans ce cas-là, on publie pas.
Ça change beaucoup, en vrai.
Enfin, oui, ça change
en fait,
beaucoup.
À l'échelle d'une administration où les choses sont parfois assez... Ouais. Ce changement, cet inversement des normes peut avoir un vrai...
Ouais, après,
inversion.
Après, ça se traduit pas forcément dans les faits. Ouais. La traduction concrète est assez compliquée. Mais il y a des choses qui bougent. Il y a un député, Éric Botorel, qui a fait un grand rapport l'année dernière. Et d'ailleurs, il m'avait interrogé, en tant que fondateur de Covid Tracker, pour son rapport, qui a été remis au Premier ministre en décembre. Et il a fait passer une circulaire, le Premier ministre, la semaine dernière, à tous les ministères, pour leur demander de passer la seconde sur la publication des données.
Cool.
Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Enfin, j'espère que ça va donner des belles choses et qu'ils vont publier toutes les données qu'ils ont à leur disposition. Quoi, ça peut faire émerger des trucs vraiment cool.
Trop bien, très cool.
Ce que je trouve assez incroyable, c'est que le fait que tu utilises ta notoriété pour mettre en avant ça, mais aussi que par exemple quand tu interagis avec le ministère de la Santé,
ouais,
tu leur dis clairement.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Si j'ai bien compris, tu leur dis clairement, mais en fait, vos données, si vous me les envoyez qu'à moi, je les prends pas.
Ah oui, ouais.
Ouais.
Oui, c'est un peu ça. Enfin, nous, après, il y a eu des articles...
T'étais déjà, et vous avez déjà une équipe, t'as concerté tout le monde, ou vraiment c'est juste toi, tu t'es dit non, mais écoute, ministère de la Santé, écoute-moi bien, je m'en fous.
On a discuté un peu, mais après j'ai vu des articles, Covid Tracker met la pression au gouvernement, enfin non, on met la pression à personne. Enfin, c'est pas notre objectif de mettre la pression, nous on veut juste être constructif. En fait, la seule chose qu'on veut, c'est que les données soient publiées. Après, voilà, on met la pression à personne, mais c'est juste qu'au bout de deux semaines.
Les bouches, quoi. Je sais pas si j'aurais dit. Merci pour l'information.
Alors, on avait un peu hésité parce que Vaccin Tracker était un peu, à l'époque, la référence vaccination. On a dit du jour au lendemain, on arrête de mettre à jour avec les données privées. Et donc, on prenait le risque, que Vaccin Tracker meure, quoi, du jour au lendemain. Donc on a pris un petit risque, mais heureusement, même pas 24 heures plus tard, on a eu les données exhaustives. Quoi.
Et c'est ça qui est fou, c'est que ça a marché. C'est même pas juste.
Je sais pas si c'est une coïncidence ou.
C'est pas possible.
Je trouve ça ouf aussi en termes de potentiel. Donc là, on parlait du fait de pouvoir créer des initiatives, des choses soi-même dans ce genre de situation. Et je sais que Mikot, t'avais parlé du no-code dans un des premiers, je crois d'ailleurs, épisode. Et en montrant aussi les avantages, mais aussi les limites un peu du truc, avec certaines boîtes parfois qui abusent un peu du truc en termes de tarification ou autre. Mais c'est vrai que t'as un truc assez kiffant. Alors moi, typiquement, mes compétences en code sont inexistantes. mais si de se dire que là, en se projetant un peu, si on a une amélioration des données publiques...
Toi, il y a grave des trucs à faire. Hein.
Et ouais, tu vois, mais amélioration des données publiques et des capacités en termes de no-code, de développer des choses sans compétences de ce point de vue-là ou avec peu de compétences... En fait, juste, c'est trop bien. Tout le monde.
Moi, j'imagine très bien un truc genre
trop cool.
DataGouv. Après, toi, tu fais ton petit truc en no-code, etc. Ça te génère ton petit visuel pour Instagram. Et hop, t'as ton.
Là, vraiment.
Et toutes les semaines, tu peux faire un petit résumé pour ta commune.
Je trouve la combinaison des deux, elle est trop kiffante. Ouais. Côté liberté dans le truc
C'est clair. Non, franchement, j'espère que ça a progressé, en tout cas, dans ce sens-là. Mais clairement, ça ferait plaisir. Un truc j'ai vu passer que ton VPS au VH était visiblement pas à Strasbourg, mais ouais, c'est pas gentil, d'accord. Soyez un peu indulgent. un truc ce qui a changé dans ta vie, c'est les plateaux télé, tout ça. J'imagine que t'étais pas un habitué à l'origine,
non.
Mais aussi il faut dire que tu sors d'études en fait. De moins en moins, mais quand même, tu nous racontais que t'étais en stage de fin d'études il y a un an. Et là, les projets que t'as montés, tu disais une centaine de personnes, bon, peut-être pas des habitués tous, mais il y a des équipes maintenant derrière ces projets-là qui sont de ton initiative. Ça se passe comment? Est-ce que c'est toi qui manages tout? Est-ce que t'as dû apprendre à être un manager, ou est-ce que quand même t'as des gens qui t'aident à mener la barque?
Ouais, bah alors après tous ces gens-là, ils sont libres, hein, c'est des bénévoles, oui. C'est un projet open source, donc enfin je veux dire, je suis pas genre leur patron ou autre,
du,
je veux dire, ils font
ce
qu'ils veulent, quoi. Mais après mon rôle, du coup, c'est devenu, pour Vite ma dose en tout cas, c'est devenu, vu qu'il y a plein de gens qui sont arrivés d'un coup il y a un peu plus d'un mois, maintenant c'est plus de coordonner, c'est-à-dire de faire en sorte que chacun communique et que ça soit structuré d'une manière voilà, efficace, et que chacun travaille dans la même direction, donc plus sur long terme avec une roadmap, etc. Donc oui, j'ai un peu plus des tâches managériales maintenant. C'est vrai que sur Vite ma dose, je code quasiment plus, ouais. Quoi, enfin je fais deux lignes de temps en temps.
Du coup, t'as vécu ça comment, là, de passer de étudiant à, genre, je gère des projets avec 50 personnes.
Bah,
et des millions de.
Ouais, quand même spécial, quoi.
Oui, mais on n'a pas de pression, quoi. Enfin, on se met pas de pression, en fait. Enfin, on essaie juste de faire des trucs utiles et c'est tout. On pense pas aux millions de gens qui l'utilisent. Alors, bon, on a quand même un peu plus de pression. Par exemple, maintenant qu'on sait que c'est utilisé par des hôpitaux, etc. Enfin, là, je parle de Covid Tracker. Du coup, s'il y a un bug ou autre, on peut pas attendre. Enfin, tu vois, il y a un an, je me disais, ça attendra demain. Je vais regarder une bonne série Netflix, je vais dormir et demain.
C'est ça qui est terrible, c'est que là, c'est non. Pas que t'as un peu rien demandé à personne. C'est-à-dire que t'as fait ce truc-là. Là, t'as une pression qui te tombe dessus parce qu'il y a les hôpitaux qui l'utilisent à la place d'avoir un service du gouvernement officiel, tu vois. Mais toi, t'as le droit que ton truc il soit down pendant 10 jours, tu vois. Ça devrait pas créer des problèmes dans le pays.
Non, mais ouf. Non, mais t'as raison, c'est que ça t'a mis une responsabilité.
Ouais.
Non, mais t'as raison, c'est ouf en vrai. Ça t'a mis une responsabilité parce que t'es utilisé par tellement de personnes, notamment par des institutions publiques, que t'es pas censé. Et y a rien contractuellement.
Ouais. Non, tu gagnes pas d'argent. Je pense que je l'ai vu aussi passer. Tu gagnes pas d'argent, on est d'accord sur ces projets-là.
Non.
C'est complètement bénévole, comme toutes les personnes qui t'aident d'ailleurs.
Oui, carrément. Oui, j'ai un métier la journée.
Mais comment tu gères
c'est compliqué, je mets des barrières, notamment au niveau des médias. Ça prend un temps fou, la relation média, et même les passages. Donc je mets des barrières. Maintenant, je me force à refuser. Je m'applique un couvre-feu médiatique de 22h à 8h du matin.
C'est pas non plus, t'as pas dit 16h, 17h.
Non, mais puis après, la journée, je peux pas trop parce que j'ai mon métier, donc c'est forcément entre midi et deux ou le soir, voilà. Mais c'est sûr que ça prend beaucoup de temps. Après, j'ai un employeur qui est très cool. Ça s'appelle Octo Technologies, c'est une boîte de consulting.
Okay.
Et ils sont très flexibles sur les horaires. C'est-à-dire que je suis pas obligé.
Tu peux avoir une interview au milieu de la journée, ce
sera. Voilà, je suis pas obligé de travailler de 8h à 18h30. Enfin, je peux décaler un peu, je peux travailler à d'autres moments, etc. Et puis aussi, ils considèrent que c'est un projet d'utilité publique et donc ils m'autorisent à travailler quelques heures par semaine sur Covid Tracker, mais dans le cadre de.
C'est leur petite BA.
C'est leur contribution à l'épidémie, quoi.
Et toi, en termes d'ambition, enfin, question logique et normale, mais il y a un peu ce truc où. Comment est-ce que tu te projettes? C'est-à-dire que tu peux évidemment te dire, après le Covid, en fait, je vais reprendre ma vie et continuer mon CDI, machin. Tu peux aussi te dire, logiquement, ce qu'on a fait là pour ce sujet-là, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas le faire pour des dizaines d'autres sujets, soit pour des boîtes, évidemment, s'il y a besoin quand même d'une commercialisation à un moment pour vivre, soit pour d'autres initiatives comme ça qui ont du sens et qui tu peux faire comme ça. Enfin, tu réfléchis, c'est un peu.
T'as pas eu une décorrélation un moment entre les chiffres que tu vas passer et juste le reste de la journée où t'es un employé de CDI d'une chat. Non, mais c'est
non,
con, mais.
Ouais, mais en fait, on s'en rend pas compte parce que c'est très abstrait quand même.
Ouais.
C'est-à-dire que les 10 millions de gens qui vont sur le site.
Toi, en fait, ta vie, à part pour passer chez TF1, Quotidien, BFM tous les jours, ta vie n'a pas assez changé, c'est ça
non,
que tu es
en
train de nous dire.
Non, en vrai, oui, ça n'a pas beaucoup changé, quoi. Et pour répondre à ta question, Hugo, c'est peut-être très désagréable, mais j'en sais rien.
Non, mais c'est normal.
Complètement. Mais en fait, c'est volontaire. Enfin, j'ai pas envie de savoir parce que, il y a un an, si tu veux, si je m'étais fixé un objectif il y a un an. Il y a toutes les chances pour que l'objectif ait été plus bas que finalement ce que j'ai atteint, quoi. Donc j'ai pas envie de me tracer une route prédéfinie pour les 5 prochaines années parce que j'aurais toutes les chances de louper un truc qui est encore plus beau mais qui est à côté, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et j'ai pas envie. Mais maintenant,
tu pourrais dire, c'était tellement usant, j'ai pas envie de le refaire. Ouais. Comme tu pourrais dire, j'ai trop kiffé de rien, monter un truc machin et pouvoir répliquer ça sur d'autres problématiques ou d'autres choses me ferait kiffer.
En gros, est-ce que l'aventure entrepreneuriale t'a fait de l'œil un peu?
Alors c'est hyper usant, mais je prendrais.
Il y a ton employeur qui est en sueur devant la maison.
Un poste à la capsule.
Non, mais je prendrai quelques semaines pour me reposer, mais après, vraiment, ce qui est important, c'est d'être utile. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire un truc pour faire un truc. J'ai pas envie de faire une boîte pour faire une boîte. J'ai pas envie de faire un site pour faire un site. Vraiment, ça m'intéresse pas, quoi. Donc, faut qu'il y ait une utilité, faut que ça serve aux gens. Je pense que ce qui m'a permis, en fait, j'aurais jamais imaginé tenir un an sur Covid Tracker. Parce que, en fait, enfin, je suis du genre à me lasser au bout d'un moment. Tu vas me dire, moi, c'est bon, j'ai fait le tour, ça me saoule.
Heureusement, il y a eu les vaccins, donc au moins il y a eu l'expérience de projet.
Ouais, mais en fait, ce qui m'a porté, ce qui nous a porté, c'est le retour des gens qui tous les jours nous envoient des tweets, des mails, des messages pour nous dire, bah merci, c'est trop cool, j'adore, j'y vais tous les jours et tout. Et c'est ça qui nous porte. Et donc voilà. Et donc si je fais un
on
autre
parle pas
truc
d'un réseau social, on parle bien d'un agrégateur de Covid.
C'est ouf. Mais c'est,
ouais. Et donc si je fais un autre truc un jour, je pense que c'est vraiment avec cet objectif-là. Si ça sert pas, franchement.
Mais c'est marrant parce que t'as presque. Je sais pas si le parallèle est bon, mais t'as presque le parcours d'un créateur de contenu. Dans le sens, non, mais je veux dire, en termes d'évolution, enfin, sur le côté entrepreneurial, de j'ai monté un truc parce que ça me paraissait bien à faire, tu vois. Ouais. Et je pense qu'on a tous, en tant que youtubeur, notamment sur la vulga et tout, un peu cette réflexion de départ. Après, t'as eu le côté, ah, ok, une audience, c'est un truc. Ah, ok, ça devient un peu professionnalisant d'une certaine façon. Ah, je m'entoure de personnes, je dois déléguer, etc. Ah, maintenant, en fait, ça, on l'a fait là-dessus. Est-ce qu'on peut pas le répliquer sur une autre problématique, sur un autre truc, sur un autre format ou dans notre cas? Et c'est marrant en fait, parce qu'au final, c'est.
Ouais, on a plus, je pense qu'on a plein de questions en commun. Ouais.
Carrément.
C'est assez marrant.
Mais moi, j'aimerais clore un petit peu ce passage sur les backstage de tous ces projets. Est-ce que toi, d'un point de vue purement personnel, il y a des choses qui t'ont étonné, t'as découvert des trucs auxquels tu t'attendais pas? J'imagine que l'évolution de ces services-là, tu t'y attendais pas, mais est-ce que s'il y a un truc que tu dois retenir de toute cette aventure, ce serait quoi?
Donc vraiment moi
ouais,
quoi,
toi personnellement
moi, bah plein de trucs notamment je pense au niveau prise de parole, enfin si tu veux j'étais hyper timide, j'étais étudiant, bon j'étais pas non plus introverti quoi, mais j'étais pas du genre à prendre la parole devant
sur
un amphi,
BFM
quoi. Non, ouais, bah voilà, enfin, si tu veux s'il y a un an on m'avait dit un jour t'iras à BFM où tu participeras à un live Twitch, j'aurais dit non, pas moi, tu vois, genre quelqu'un d'autre, mais pas moi. Et donc ça m'a beaucoup surpris, quoi. Ça m'a vraiment énormément surpris. Bon, c'est hyper stressant.
Ça t'a surpris que tu t'y fasses?
Ouais, que j'arrive à le faire. Ouais.
Tu t'es impressionné quand même. Non, c'est trop stylé, franchement.
Ouais. Après aussi, le fait de rassembler autant de gens autour d'un projet, franchement, j'aurais jamais imaginé ça possible. Enfin, pas moi, tu vois, et même faire tout ça, tu vois, ça me paraît techniquement. Trop dur, etc. Enfin, et puis il faut que toutes les planètes soient alignées. Il faut s'entourer des bonnes personnes, etc. Ça, j'aurais jamais, imaginé ça, quoi. Ouais. Donc ça m'a surpris aussi le fait de rassembler tous ces gens-là.
L'homme qui traque les deux restantes. Incroyable,
magnifique.
Ce titre incroyable.
mais attends, c'est un fake ou ils ont vraiment mis ça? C'était BFM qui avait mis l'homme qui traque les... j'avais pas vu.
Non, le fake est très bien fait. Non,
c'est juste au-dessus de Xavier Dupont de Ligonnès. Pour info, si t'es pas au courant. Question bête, mais est-ce que le gouvernement t'a proposé de t'embaucher, par exemple?
Alors, c'était pas aussi
direct.
Motivé. En gros, on m'a fait comprendre que si j'avais envie... Alors, pas au gouvernement directement... Mais que voilà, que si j'avais envie d'avoir ma place dans une administration, ça serait pas complètement impossible.
Parce qu'il y a des. En plus, il y a des.
Non, mais j'ai envie de dire, c'est encore heureux, je sais pas, mais ça me paraît évident.
Ça aurait été presque choquant dans le sens où ce serait pas normal que l'État ait l'initiative de se dire. Enfin,
ouais, mais après, c'était pas non plus, on m'a pas tendu la fiche de CDI en me disant signe et.
Non, bien sûr, mais je veux dire que. Enfin, ce serait normal que l'État y pense au moins et se dise, ok, c'est intéressant. Mais tu vois, surtout qu'il y a un truc où je sais que le gouvernement, alors je sais pas si c'est le gouvernement ou derrière un ministère précis, je crois que c'est de la fonction publique qui travaille en fait au renouvellement et juste à améliorer le service public, faire en sorte que ce soit plus accessible, etc. Ouais, etc. Ouais. Et ils ont une, et tu auras sûrement le nom, et ce que moi j'ai plus, une sorte de structure où ils créent des sortes de start-up au sein de l'État.
Oui, c'est les start-up d'État.
C'est ça le nom.
Okay. Les start-up d'État. Ouais.
Et ça aurait du sens, tu vois. C'est-à-dire que là, ce que t'as fait là, ça aurait eu du sens que ces startups d'État le montent et ça aurait du sens d'avoir des profils comme toi au sein de l'État. Enfin, je pense que ce serait très cool, quoi.
Exactement, ouais, mais en tout cas, ils m'ont pas contacté pour ça, mais c'est vrai qu'au début, ça aurait pu être une bonne idée, ouais.
De se dire,
je connaissais pas ce principe-là au début, il y a un an. Mais oui, mais c'est vrai que c'est une super
parce que eux, tout leur taf, super truc, pour un peu présenter le truc, c'est tout leur taf et leur journée, si je comprends bien le.
Ouais.
J'ai rencontré des gens qui travaillaient là-bas, c'était de se dire, bah en fait, il y a plein de choses qui se font aujourd'hui à l'échelle de l'État qui sont pas forcément les plus modernes, les mieux faites, les mieux optimisées, mmh. et donc on va chercher des entrepreneurs ou des profils, des gars qui sont très bons en design, en UX, en dev, en tout, et on va rassembler ces gars-là et les faire moderniser des outils pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. Et c'est un peu
exact. Ouais, c'est une startup. Je crois que c'est financé par l'État, mais c'est en fait il faut avoir une personne qui est rattachée à l'État dans la startup, qui a une sorte de référent, je crois. Et l'objectif c'est vraiment de faire des services numériques publics qui sont innovants, quoi, qui sont agiles, qui sont dans l'esprit startup, quoi.
Mais c'est cool en vrai d'avoir ça.
Ouais, c'est super cool.
C'est des trucs qui ressortent qui sont.
Il y a un beau name dropping là. non mais c'est clair, enfin moi je me suis dit t'as forcément eu des questions qui sont devenues au fur et à mesure là de cette année, notamment sur en fait pourquoi potentiellement est-ce que ça aurait pas été logique que ce soit un service qui apparaisse au sein du gouvernement, enfin au sein de l'État. C'est quoi ton rapport du coup, vu que t'as pas vu de l'intérieur mais un peu quand même, c'est quoi ton rapport un peu au côté service public et tout, quoi?
Alors cette question-là,
ouais, c'est une question compliquée, tu vois. Je pense
qu'on pose le plus.
Ouais.
En fait, je me suis posé cette question-là. Enfin, j'étais surpris la première fois qu'un directeur de centre hospitalier m'a appelé. C'était en septembre, je crois, dernier, pour me dire, merci Guillaume, on utilise Covid Tracker au quotidien en cellule de crise à l'hôpital pour essayer d'anticiper l'épidémie et donc anticiper les besoins humains en matériel, etc. Et là, sur le coup, j'ai dit trop cool, tu vois, c'est trop bien. Enfin, à l'époque, Covid Tracker était petit, je me suis dit c'est génial, quoi. Si je peux aider des gens, trop bien. Et puis après, je me suis dit mais attends, en fait, t'es étudiant, t'as développé un site au début tout seul, sur ton temps personnel, genre après ton stage le soir, tu vois, quelques heures par-ci par-là, alors que t'avais jamais codé une ligne de développement web, que t'as jamais fait de formation web, donc avec des technos pas forcément top, etc., quoi. Et ce site, il est utilisé par des hôpitaux publics officiels pour potentiellement gérer des vies. Ouais. Enfin, peut-être qu'il y a des vies.
Le constat, il fait mal quand même.
Et donc là, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment normal? Puis après, il y avait des articles qui étaient publiés, on en a discuté sur Twitter. Mmh. Et il y a un point de vue que je trouve intéressant de gens sur Twitter qui consiste à dire, finalement, c'est peut-être aussi le fonctionnement normal de l'open data. Mmh. C'est-à-dire que l'administration, l'État, fait la chose qu'il est le seul à pouvoir faire, c'est-à-dire collecter des données de santé. Personne d'autre peut le faire, ni légalement, ni... Enfin, moi, j'ai pas les ressources de le faire, et de toute façon, légalement, c'est impossible. Donc, collecter ces données de santé, les agréger... Mais par contre, après, il doit être obligé, enfin moi je considère qu'il doit être obligé de les publier pour que de l'autre côté, des citoyens, des privés ou même d'autres administrations, d'autres organisations publiques réutilisent ces données pour éventuellement pallier des choses qui n'auraient pas été faites.
Une vision plus positive de la chose, en gros, de dire il y a ces données-là et c'est aussi aux citoyens de s'en saisir, etc. Quitte à ce qu'après, d'ailleurs, ils soient soutenus par...
C'est qu'il manque un peu une brique quand même, parce que là, tu fais ça sur ton temps libre. Le système repose sur le fait que t'es des gens qui...
Et si demain, tu veux le faire, tu prives la France... Non, mais littéralement, tu pourrais priver la France demain
d'un asset critique.
Enfin, en vrai, on peut le dire.
Après, bon, il y a d'autres gens qui le font, etc. Donc,
il y a quand même un truc qui est. T'as raison, en termes de projection, il manque peut-être un truc de.
Il manque une case, là, quand même.
Ouais. Alors, est-ce que dans un monde idéal, ça aurait été à l'État de faire un tel truc? Peut-être. Alors, l'État l'a quand même fait. Hein. On a Géode, je sais pas si vous connaissez Géode, non, vous êtes déjà mal allé, c'est un site qui permet d'accéder aux données de Santé publique France. Mais c'est un peu moins intuitif, donc les gens n'y vont pas forcément, enfin, ou alors uniquement les professionnels de santé y vont. Et puis on a le dashboard, on voit Géode. Tu peux cliquer sur les indicateurs en haut à gauche. Et voilà, donc en fait, il faut aller dans la liste à gauche, c'est un peu compliqué. Ouais. Moi, à chaque fois, je mets 10 minutes pour trouver le truc que je veux trouver. Donc, c'est hyper utile. Franchement, je critique pas, hein, c'est hyper utile et nécessaire. Mais je pense que le citoyen lambda, le grand public, il va pas sur Géode le soir à 20h pour se dire, quelle est la situation du Covid
du soir. Ah,
je pense pas. Après, il y a le dashboard officiel aussi de Etalab, du gouvernement, qui s'est bien amélioré avec le temps.
Ouais, qui est quand même pas dégueu.
Qui est très bien. Donc, enfin, il y a quand même des trucs
officiels,
quoi.
Il n'y a pas rien. Mais toi, en slip dans ta chambre, sans avoir fait une ligne HTML, tu t'as refait mieux en 3 jours. On va quand même le mentionner. C'était méga intéressant, honnêtement. Je pense que, enfin, on pourrait en parler des heures et des heures, mais de voir aussi un petit peu les backstage un peu plus techniques, de savoir quels sont les technos qui se cachent. J'avoue, en fait, je pensais que ce serait un plus gros bordel que ça, d'un point de vue de genre de l'infra et tout. Mais en fait, pas tellement, quoi.
Non, c'est assez light. Ouais, c'est assez light et Vitmados aussi, hein. Au début, on utilisait, pour faire tourner les algos de scrapping, on utilisait les GitHub Actions. Je sais pas si tu connais, c'est CI/CD.
Ah oui, oui.
De GitHub, qui est gratuit. C'est juste des runners que tu peux faire.
Ah oui, donc, ok, puissant. D'accord. Et tu l'utilisais, voilà, en fait.
Et on utilisait ça pour faire le scrapping.
Comme un cron, quoi.
Ouais, exact. Okay. Ouais, exact. Et donc, enfin, c'est gratuit, c'est voilà, c'est et donc on bombardait avec ça. Bon, on a changé pour que ce soit plus efficace, donc maintenant on fait ça sur un serveur. Mais sinon, c'est un site statique qui est très léger sur le VPS. Enfin,
et puis c'est
techniquement,
tout ce qu'il faut, quoi.
C'est light, quoi.
Non, mais c'était, j'étais assez impressionné. Je m'attendais à un data center entier qui doit traiter, qui doit envoyer des requêtes de partout et tout. Mais en fait, bah, pas forcément. C'est Mais c'est encore plus encourageant aussi d'un point de vue économique, c'est de se dire que bon, même quand on est, même avec des services gratuits, bah, on peut, bon, peut-être qu'il y a un moment, il faudra payer un peu si vous voulez envoyer 10 000 emails, quoi. Non, mais d'ici là, il y a plein d'étapes où, en fait, on peut faire du gratuit. Tu parlais de GitHub, qui ont des services très bien. Il y a Netlify aussi qui ont des trucs très cool. T'as de plus en plus. Pendant longtemps, on connaît le modèle freemium où, en fait, pour les développeurs et pour plein d'autres services d'ailleurs, tu commences avec du gratuit, etc. Et quand tu professionnalises, tu commences à payer. Mais en ce moment, c'est en train de prendre une tournure, j'ai l'impression, où, en fait, tu payes vraiment très très tard. C'est-à-dire que t'as 10 boîtes qui financent 2000 développeurs, mais c'est assez insane. Donc, en ce moment, c'est si vous voulez vous mettre au dev, faire des projets perso, voilà, etc., ça vous coûtera probablement vraiment presque rien. Donc, ça, c'est cool, c'est encourageant. C'était la fin de la petite partie sur les. La petite partie, j'ai dit. L'énorme morceau qui a été cette aventure cette dernière année. Je vous propose une petite revue d'actualité. Je te pique ton travail, cher Hugo.
Écoute, avec plaisir, avec plaisir.
Mais tu vas voir, ça ressemble pas tellement. Nos actus vont être un peu différentes. Et puis voilà, tout simplement, il n'y a pas encore de jingle pour ce genre de choses, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Premier truc que j'ai noté, c'est que il se passe un truc assez spécial cette année, c'est le nombre de failles qu'il y a sur iPhone. iPhone, voilà. C'est assez spécial cette année, mais il y a un nombre de failles critiques qui a été découvert, qui est assez impressionnant. Comment on le sait ? Ce qu'on fait, c'est que ce que font les chercheurs, ils regardent les changelogs de iOS, les patchs de sécurité qu'ils font. Et là, il y en a encore deux qui ont été patchés après iOS 14.5 très récemment. Ça fait 7 qui ont été trouvés. Alors Apple, ils disent, c'est la nomenclature hyper intéressante, ils disent que c'est des failles qui ont été trouvées dans la nature. Ce qui est intéressant, c'est en gros, ça veut dire que c'est des failles dites zero days, c'est-à-dire qu'en gros, elles ont été découvertes par des gens avant que le patch soit appliqué. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a toute une portion de la timeline, quoi, où il n'y avait pas de patch et en gros tu pouvais t'étais à poil, quoi, en gros, avec ton téléphone, et donc ça s'appelle zero days. Et quand ils disent que c'est utilisé dans la nature, ça veut dire qu'ils ont des alors eux ils disent probablement, mais ça veut dire qu'ils ont des très bons indices comme quoi il y a des hackers qui l'ont utilisé, enfin c'est ça que ça veut dire en réalité quand tu lis entre les lignes, pour des actions cyber malveillantes. Donc ça peut être des gouvernements, des groupes indépendants de cybercriminels, etc. Donc deux dans la dernière, dans le dernier hotfix, hotfix comme on dit, et ça fait 7 cette année rien que pour iOS, dont 5 qui étaient dans WebKit, qui est en fait le moteur du navigateur web sur iOS et sur Mac. Le moteur, c'est vraiment le truc qui transforme. Je sais pas si je vais bien l'expliquer, mais tu me corrigeras si je dis n'importe quoi. Mais c'est le truc qui transforme le code qui arrive sur votre machine, donc les fichiers du site web, en quelque chose de visible pour vous. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui gère toute l'interprétation du code, le JavaScript, plus le dessin, enfin le fait de dessiner en fait l'interface, etc. Dites-moi si j'ai dit des bêtises, mais je crois que c'est à peu près ça. Et en fait, mine de rien, ça, c'est un des programmes les plus compliqués qu'on sait faire. C'est vraiment genre le moteur d'un navigateur. C'est vraiment, vraiment un bordel. Voilà. Je peux pas vous donner des chiffres en termes de nombre de lignes, etc. Mais si tu le compares, par exemple, au programme spatial de 69, tu vois, C'est n'importe quoi. Genre, c'est des échelles complètement délirantes. Et donc, ça fait que c'est très compliqué de ne enfin, qu'il n'y ait pas de
bug, en fait.
Et donc, c'est très souvent là où on trouve des choses. Et surtout que c'est des trucs qui ont besoin d'accès vraiment élevé dans le système. Et donc, c'est très pratique pour les pirates de passer par là. C'est-à-dire qu'une page web, on t'envoie un lien par SMS ou un truc comme ça. Surtout que récemment, ils sont devenus très chiants sur iMessage. Ils ont renforcé leur sécurité. Du coup, on t'envoie un petit lien, tu cliques dessus, bam! Et en fait, t'as une vulnérabilité à l'intérieur de la page que tu charges, ou alors dans un mail, etc., qui va permettre aux pirates de prendre le contrôle de ton téléphone.
Et comment est-ce que tu vois entre Apple par rapport à, enfin, ou iOS d'ailleurs, je sais pas si c'est Apple ou iOS plutôt, mais, et d'autres.
C'est ça qui est un peu compliqué en réalité, c'est que l'information de, il y en a plus en ce moment. Bah c'est le cas, c'est-à-dire qu'on a l'information qu'il y a plus de vulnérabilités qui ont été patchées cette année. Mais est-ce que c'est parce que ils ont embauché des nouvelles personnes qui trouvent vachement plus de vulnérabilités? Est-ce que c'est parce que
ils ne communiquent pas?
C'est parce que les cybercriminels sont hyper chauds cette année et du coup ils en utilisent beaucoup et du coup on les détecte, mais en fait il y en a plein d'autres qu'on sait juste pas qu'elles existent encore.
T'as aussi le degré de gravité des différents trucs qui sera analysé. Ça se trouve là c'était cette très grave, alors que
ce dont on parle, c'est quand même plutôt des trucs assez critiques.
Et puis ça dépend aussi de la propension des gens à mettre à jour leur OS. Et ça varie sur les OS, parce que en général ils patchent, mais après il faut que les gens, du coup, ils mettent à jour pour avoir le patch. Et s'ils mettent pas à jour, bah ils ont la faille.
Par exemple, je crois que la dernière version de Android 10 est sur 1% des devices, je crois.
Ouais. Voilà. Alors qu'iOS, t'as 80% des gens qui ont la dernière version, quoi.
Effectivement, énormément de facteurs. Donc c'est compliqué de tirer des conclusions de Apple par rapport à ses concurrents. Mais globalement sur l'industrie, en gros, alors ça c'est vieux ça. Mais globalement sur l'industrie, il y a énormément de failles qui sont découvertes de ce genre dans les moteurs. Et donc ça laisse rien de bon. Présager,
vous avez compris.
Il faut relativiser tout de même. Parce que en fait, il y a assez peu de risques pour nous, les gens normaux, parce que c'est des failles qui sont vraiment, alors soit les termes pour la décrire c'est cher, soit très dur à trouver, c'est vrai qu'il faut des grosses équipes, etc. Et en fait, c'est surtout utilisé par les gouvernements ou des agences de renseignement. Donc voilà, le risque pour nous est modéré, mais n'hésitez pas à faire des mises à jour tout de même, c'est toujours bienvenu. Deuxième petite actu des familles, c'est une campagne, qui me préchote, campagne de com de Signal qui est juste géniale. Je sais pas si vous l'avez vu passer.
Ouais.
Trop fort.
Bref, carrément.
Pour expliquer, ils ont fait de la pub sur Facebook. Donc déjà, ça peut paraître assez perturbant, mais oui, Signal a fait une grosse campagne de pub sur Facebook où, en fait, ils ont, ils ont utilisé le panel d'ads de Facebook, qui est un outil, mais si vous l'avez jamais ouvert, c'est une usine à gaz, tellement il y a des options et surtout, c'est ça qui est le plus intéressant, tellement vous pouvez cibler la population que vous voulez toucher avec votre pub. C'est-à-dire que vous êtes en mesure c'est exactement le but de cette campagne-là, c'est de montrer que vous êtes capable de cibler des gens qui sont fans de K-pop, qui habitent à Berlin, qui viennent d'avoir un nouvel enfant, qui ont déménagé et qui ont fait des exercices de femmes enceintes, je sais pas comment le traduire, mais tout ça, voilà, il faut vous dire que les personnes de chacun qui avaient chacun de ces paramètres qui leur collaient a vu précisément l'image qui correspondait. Donc c'est juste du génie, parce qu'en réalité je sais pas vous, mais je savais à peu près, tu vois, qu'il y avait ce genre de, peut-être pas à ce point là quand même,
mais
je savais qu'on pouvait on pouvait à peu près cibler les gens.
Et puis t'as un truc intéressant, c'est il y a un peu une forme d'effet stressante, je pense, dans le truc, parce que si ça se trouve, cette campagne là ils l'ont faite sur 1000 personnes.
Mais bien sûr, elle va être shut down par YouTube, Facebook en une demi-journée.
Facebook, et là tout le monde en parle, mais tout le monde voit le truc, voilà. Et c'est ouf, c'est trop fort.
C'est du génie, parce que ce que je disais, c'est que je savais à peu près, tu vois, que c'était possible, mais là de le voir de tes propres yeux, c'est trop fort, quoi.
Et il y a un truc dingue, alors je sais pas si vous y êtes déjà allé, mais il y a une
c'est page, déjà shutdown apparemment.
Ouais, et dans les réglages de Google, de son compte Google, il y a une page où tu peux voir tout ce que Google a compris de toi. Parce qu'ils sont obligés.
Mais ça, c'est eux qui le mettent en avant, donc t'auras jamais le pire dessus.
Ouais, mais c'est déjà bluffant.
c'est vrai.
Mais c'est déjà bluffant de voir à quel point ils t'ont bien compris. Ouais. Hein, parce que, enfin voilà, ils vont dire, t'as tel âge, t'es un homme blanc, t'es intéressé par la sécurité, tu fais des vidéos, t'es intéressé par YouTube. Et je conseille les gens d'aller voir, c'est assez perturbant.
Ouais, c'est grave. Mais ce qui est fou, c'est que c'est la partie immergée. Parce que,
Émergée.
Émergée. Ouais, c'est mieux. qui sait ce qu'ils ont compris en réalité, tu vois. C'est ça qui est assez frappant. Mais en tout cas, voilà, GG Signal, parce que c'était le meilleur moyen, je pense, de faire passer cette info-là. Et surtout, moi, je me suis dit, mais d'un point de vue technique, c'est intéressant, parce que chacune de ces pubs, c'est une image, tu vois, c'est un PNG, quoi. Et donc probablement qu'ils ont dû, c'est même certain qu'ils ont dû du coup passer par l'étape d'automatisation de comment ils peuvent générer ces visuels-là à partir de chaque combinaison, parce que je sais pas combien ils en ont fait, s'ils en ont fait des centaines ouais. ou des milliers, mais...
Niveau de personnalisation du truc, c'est assez ouf, c'est là où peut-être qu'en fait ils l'ont fait que pour 100 personnes, juste oui, pour peut-être. Faire parler du truc.
Mais ça se trouve, mais ils avaient même pas besoin d'en faire tant que ça en fait.
Ouais, c'est ça. Ah, en ouais, fait, ça va un degré plus loin que le truc de... Tiens, on avait... moi, je sais que je m'étais beaucoup renseigné au moment où Trump, notamment en 2016, avait beaucoup utilisé ses campagnes sur Facebook, où déjà, il y avait quand même un degré de personnalisation et d'A/B testing et de degré de granularité sur les campagnes à tester le moindre détail sur une campagne pour s'adresser à la bonne personne. Mais là, c'est encore plus fort parce qu'il y a le côté direct de la chose. Et... il y a un degré de détail dans la campagne qui est
complètement insane. Ouais. Ouais. Et du coup, bah, je me suis dit, mais comment ils font pour avoir fait autant d'images, là, machin. Et c'est rigolo parce que je m'étais un peu posé les mêmes questions pour d'autres projets. Je m'étais toujours demandé, par exemple, comment on pouvait automatiser tes actus. Je me disais, non, mais il doit y avoir un truc à faire. Okay. Et du coup, j'avais regardé, mais t'as des services comme ça, en fait, qui te permettent de générer des visuels pour les réseaux sociaux, les réseaux sociaux de façon automatisée. Enfin, j'imagine que tu dois connaître ces trucs-là, mais j'en avais passé certains. Non. J'avais vu Banner Beer, je crois, et j'en avais vu quelques autres.
Et donc, ça génère des visuels en fonction de.
En gros, c'est vraiment une API, quoi. Et tu lis, dans ton panel utilisateur, tu crées ton visuel. Alors, le problème, c'est qu'ils sont pas encore compatibles avec des trucs qu'utilisent vraiment les designers, tu vois. Faudrait qu'ils soient compatibles, genre, avec Figma, parce que c'est du web, donc ça doit. Je pense que ce serait vachement faisable. Je n'ai pas encore regardé. Je vous dirai si je creuse ça. Donc pour l'instant, tu fais ton design un peu à la main. Et en gros, ça, tu lui dis, bon voilà, moi j'ai envie de faire un visuel qui ressemble à ça. Sauf que genre tous les lundis, j'ai besoin de faire ce visuel-là, mais où il y a ce texte qui change et l'image qui change, tu vois. Okay. Et du coup, au lieu de faire un template Photoshop, bah, tu as une API en fait, où tu lui envoies ça, il te rend le fichier directement généré. Tu as ça aussi pour les PDF, avec PDF Monkey. Voilà, je vous passe des comme ça. Moi, je vous file des petits outils, c'est gratos. Un jour, on fera une vraie section qui s'appellera genre l'outil de la semaine et tout. Voilà, ça pourrait être cool. Mais pour l'instant, c'est totalement gratos. Autre actualité que vous avez forcément vu passer, c'est Shadow qui, c'est bon, c'est tombé, a été racheté par OVH. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais. Mais en gros, pour simplifier, on va dire que c'est ça. Vous aviez peut-être vu la vidéo sur ma chaîne YouTube où on en discutait. On avait accueilli notamment JB Kempf, qui est le président de l'association Vidéolan, a.k.a. les gens qui font VLC. Et on avait parlé de tous ces sujets. C'était méga intéressant. Surtout que Shadow, c'est une boîte qu'on connaît bien ici, et dont on parle littéralement à chaque émission. Donc, à un moment, voilà, faut suivre. Et c'est tombé. C'est OVH qui reprend le bébé. Voilà, c'était un peu la guerre avec les employés derrière JB. Et voilà, finalement, c'est le tribunal de commerce. Je crois que c'est eux qui font ça. Je sais plus. Mais c'est eux qui ont vendredi dernier, déclaré que c'était Octave Klaba avec son fonds d'investissement qui reprenait la boîte. Donc, dans tous les cas, il faut se dire que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la boîte ne disparaît pas. Et voilà, on a tout simplement hâte de voir. Oui, c'est bien le tribunal de commerce. Merci. Donc, de Paris. Et donc, on a hâte de voir ce que ça va donner. Ce qu'on espère, c'est tout simplement que la tech ne disparaisse pas, parce que, ben, comme on l'expliquait dans la vidéo, c'est un produit complexe français, et donc c'est des mois de travail, enfin des années de travail pour arriver à un produit qui est honnêtement extrêmement propre aujourd'hui. Donc ce serait con que ça disparaisse. Donc voilà, on peut être que content, même ceux qui étaient plus dans la team JB. Consolez-vous, on va voir ce que ça va devenir. Et moi surtout, j'aimerais bien avoir Octave Klaba un jour ici, donc on va être gentil. Dernière petite actu des familles. Je vous préviens, en termes de sérieux, là ça va faire un choc. Disney a annoncé qu'ils avaient fait un sabre laser. Je sais pas si vous avez vu ça, non?
Ah non.
Non. Non.
Ça n'a aucun sens. What? J'ai vu ça, je me dis, what? Je vous propose qu'on va vous l'envoyer. Je propose qu'on vous la mette, une petite vidéo qui va vous démontrer la puissance. Let's go. Normalement.
J'adore. C'est je peux combler.
Le principe,
rêver,
ouais, c'est le principe de l'oreillette. J'ai pas encore cette. Ok, non, mais il y a peut-être pas. Il y a pas de vidéo.
C'est bon.
Inside.
What?
C'est propre ou pas? Franchement, c'est méga stylé. Hein. Attends, remets parce que j'ai envie de voir.
What?
J'ai mis du temps à capter.
Il y a beaucoup de questions du coup.
Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous vient là comme question?
La techno, enfin concrètement, qu'est-ce que ouais.
je vois que vous, enfin voilà, vous êtes sans réponse quoi. C'est de votre tort de technologie. je vais doucher votre enthousiasme.
C'est un fake.
Il y a un truc pas clair dedans. Non, c'est pas un fake.
Ah ouais, sorti juste ces deux vidéos là.
Non, en vrai c'est stylé. Oui, il y a juste ça pour l'instant.
Okay.
Non, il y a des explications après.
Okay.
Qu'on va vous montrer les plans parce que vous allez voir. En fait, ouais. Moi je m'attendais à un truc de ouf, une technologie révolutionnaire qui nous était cachée depuis la nuit des temps.
Et en fait, plastique.
Vous voyez un mètre qui se rembobine là. En fait, c'est deux mètres comme ça, avec un bandeau de LED au milieu.
Ah, trop stylé.
Ah oui, donc c'est assez.
Voilà, c'est tout. Non, vraiment, c'est juste ça.
Mais c'est pas ça qu'on voit.
Si, parce qu'en fait, alors je pense que la caméra joue, tu vois. Et je pense que du coup, avec une puissance suffisante, tes LED, tu vois, surtout elles doivent se réfléchir sur les côtés du truc et tout. Et en fait, le moteur dedans doit avoir un peu de patate, je pense.
Ça, c'est une vidéo de Disney ou c'est d'autres personnes qui ont analysé le...
Écoute, c'est une très bonne question. Il y a marqué source internet, ok. Donc, on a le même niveau de connaissance que la télé. Donc, je saurais pas te dire. Mais
ok, c'est assez classique. Enfin, et ça, ils veulent. On sait s'ils veulent le vendre ou si c'est juste en mode.
Franchement, je vais te dire, on a juste vu la vidéo. Juste avant l'émission, on s'est dit, on le met, mais c'est insane. Franchement, et surtout, je pense que le moteur doit avoir un peu de patate pour que une quart de seconde, c'est ça qui fait l'effet. Mais voilà, c'est tout. C'était juste ça.
solide.
C'était ouais, juste ça, mais je me suis dit, vas-y, j'ai toujours rêvé d'avoir ça quand j'étais gamin.
J'adore qu'ils aient publié ça comme ça.
Voilà.
Parce qu'il écrit quoi à la fin de la vidéo d'annonce, là? Qu'est-ce qu'il dit? Il y a l'annonce d'un truc, je sais pas si pour la
On va décrypter en live.
Ce terme.
Qu'est-ce que ça fait?
C'est pour un.
Ok.
C'est
Ouais, c'est Disney World, quoi.
Pour un truc, ouais, un hôtel, un
bel.
Mais tu sais, quand je retilte maintenant, mais il y a aucun problème avec le terme décrypté. Hein.
Ah ouais?
Non.
Mais j'ai des messages tout le temps. Hein.
Enfin, mais non, mais décrypté, souvent. C'est très bien. C'est pas de souci. C'est crypté, en fait, qui n'existe pas.
Ah oui, décrypté, ça se.
Ouais, décrypté, t'as. Mec, t'as. Tu pensais que depuis le début,
non mais alors moi,
tu vivais dans le mensonge
à fond, mais j'ai régulièrement des commentaires de mais ça veut rien dire, faut dire déchiffrer.
Ça veut juste pas dire la même chose, mais le mot existe.
Le mot existe, c'est pas
dit. En gros, décrypter, ça veut dire vraiment tout le monde a entendu ça 10 fois ici, mais c'est pas grave, je fais. Décrypter, c'est juste tenter de retrouver le message qui se cache derrière un message chiffré sans avoir la clé. Tu vois, c'est comme si t'as un coffre, t'essaies de le péter, de récupérer ce qu'il y a dedans, mais t'as pas la clé. Quand t'as la clé,
un peu bourrin quoi sur GoDécrypt, on a un peu.
Ouais, c'est ça. quand t'as la, même le Wikipédia.
Voilà, c'est exactement la définition que t'as. Ouais,
mais voilà, quand t'as la clé, c'est du déchiffrement tout simplement. Ouais. Et donc, toi, comme t'as pas vraiment les clés, quand tu vois, tu pars, en fait, c'est bon.
Je vais en bourrin comme ça et c'est bon, on trouve le truc.
Voilà. Bon, pour c'est moi, je te rassure sur cette question existentielle.
Je vais ressortir cette définition tout le temps maintenant.
À chaque fois qu'on t'emmerde, tu pourras le dire. Je vais vous prendre totalement de court, mais on arrive à la fin de l'émission. Si vous avez potentiellement une appli, un service, j'ai fait la mienne, du coup j'ai fait ma reco de la semaine. Si vous avez un truc que vous avez vu passer il y a pas si longtemps, soit pour les développeurs, soit pour
vas-y, c'est facile, vite ma dose.
T'as raison.
C'est un but non lucratif. Allez-y, je crois qu'on est sorti du top 100 France. Faut y revenir. Hein.
Il faut revenir à ça. Là-dessus. Donc vous pouvez installer vite ma dose.
Et moi, la Roco, c'est une appli qui s'appelle. Alors peut-être que vous en avez déjà parlé. Et je sais. En fait, juste j'ai testé en tant que utilisateur.
Non, bien sûr.
Qui s'appelle Opal, O-P-A-L. Ça te parle pas? Non. En gros, c'est une application qui, donc vous pouvez regarder, je pense, en ligne. D'ailleurs, c'est un Français, je crois, qui est derrière. Et il essaie de résoudre le problème de, on passe trop de temps sur notre téléphone. Et même les trucs de restriction mis en place par iOS, Android ou autres sont pas forcément incroyables. Et donc, le principe, c'est quoi? Il va utiliser, donc c'est que sur l'App Store pour l'instant sur iOS, il va utiliser la possibilité de créer des VPN directement sur Apple pour bloquer l'utilisation de certains sites.
Ah, okay.
Et donc en fait, tu peux, une fois que tu es dessus, dire en fait, je veux pas accéder à, je veux qu'on bloque l'accès à Facebook, l'application Facebook, Insta, YouTube, tel ou tel truc. Et en fait, tu peux activer ou désactiver cet outil. Et quand c'est activé et que tu vas sur l'application Facebook,
ça charge pas,
par exemple,
bah, bien sûr.
Ça charge pas.
Et en fait, c'est que c'est le même système que utiliser les ad bloqueurs, par exemple, sur iOS.
Ok, bah je sais pas.
Voilà, c'est en fait, ouais. Bon, il y a pas 10 000 moyens sur iOS de pouvoir gérer les connexions. Le VPN, je pense, est la façon la mieux foutue. Ouais.
Et donc, c'est très cool. Je sais que j'ai des potes à moi qui l'utilisent très régulièrement. Moi, j'ai eu quelques trucs où parfois ça prenait un peu de temps pour désactiver, réactiver. Or, typiquement Twitter et tout, j'en ai besoin pour taf, donc c'était très dur un peu de faire ce truc-là. Mais globalement, ça marche très bien. Il y a une version gratuite, après une version payante. Je trouve la DA du truc très stylé avec le petit personnage.
Ouais, c'est bien foutu, ouais.
Et
ok, intéressant.
Bah, à tester en tout cas.
Mais gars, ouais, je trouve ça intelligent parce que sinon t'as des applis qui essayent de bloquer les autres applis et tout, mais du coup c'est jamais parfait. Alors que là, je trouve que c'est hyper. Enfin, je trouve ça assez smart de passer par le VPN.
Ouais. Tester, voir
très cool. Et donc, bah vite, Mado, si potentiellement vous avez, j'imagine, enfin là, je sais pas s'il y a des limites d'âge ou des trucs comme ça. J'avoue, je suis pas hyper.
Sur la vaccination.
Pour vite Mado, alors tu peux être vacciné à partir de 16 ans. En France.
Ah oui, d'accord.
Après, ça va être étendu, enfin, sûrement, mais plus tard dans l'année, quoi. Il faut avoir des preuves scientifiques.
Bah voilà, bah si vous n'êtes pas encore vacciné ou que vous avez des parents qui ne sont pas encore vaccinés, n'hésitez pas à le recommander vite, Mathieu.
C'est ouverture à tous, c'est le 16 juin.
Non, le 15 juin.
Le 15 juin. Bon, après, il y a évidemment tout ce truc-là, mais.
Tout ça est à suivre sur la chaîne de notre cher ami Hugo Décrypte. Et donc, non, du coup, ça s'appelle comment maintenant la chaîne Hugo Décrypte?
Donc, Actu. En gros, la chaîne.
J'ai vu que, il y avait des débats sur Twitter pour savoir comment t'allais l'appeler.
Ouais, c'était pas évident, tu vois. Donc, la chaîne qui existe depuis des années s'appelle Hugo Décrypte Actu du jour. Okay. Et la nouvelle chaîne qu'on a créée s'appelle juste Hugo Décrypte. Parce qu'en fait, c'est un peu l'idée de se dire, tu vois, on va pas créer une chaîne secondaire. On va créer la chaîne principale.
Voilà, c'est ça. Du coup, les gens, ils vont arriver, ils vont se dire, attends, je suis pas abouti.
On va refaire toute la DA de la chaîne là, dans quelques jours. Donc tout ça va un peu être.
Voilà, allez voir ça à fond. Et puis voilà. C'était tout pour cette émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous étiez content de passer ce moment avec moi.
C'est très sympa.
C'est super cool, trop bien.
Et ben, peut-être qu'on se reverra dans un an quand tu seras devenu président des États-Unis. et nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai oublié les call to action, mais n'hésitez pas à follow bien sûr cette chaîne Twitch si vous avez apprécié cette émission et allez suivre les vidéos sur la chaîne YouTube si vous êtes arrivé en cours de route. Voilà, ça arrive. Pour l'instant, on n'a pas encore trop le système où on vous rappelle ce qui s'est passé avant.
Il y a un compte Insta _.
Mais bien entendu, qui est très neuf. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir le compte Instagram pour avoir tous les backstage tout simplement et le YouTube si vous avez raté des moments. On vous fait des petites vidéos condensées pour ceux si vous n'avez pas trop de temps. Voilà, tout ça se passe sur la chaîne YouTube _. Et nous, on se dit à très bientôt. Très bonne soirée à vous et très bonne soirée à vous qui nous regardiez. Et puis voilà. Ciao.
One-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.